Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de QG pour une nouvelle soirée de débat en direct. Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer ce soir. Beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais nous venons de réussir notre campagne de financement participatif sur Ulule. Alors, mille merci à tous les contributeurs. C'est un moment particulièrement émouvant pour l'équipe parce que rien n'est jamais gagné, parce que la période est très dure financièrement pour les Français, nous le savons, notamment grâce aux exploits du Mozart de la finance, parce que beaucoup d'entre vous ont vraiment sacrifié quelque chose pour donner à QG, pour nous soutenir, nous le savons, et parce que la période est très noire aussi, avec une actualité très difficile, très oppressante, qu'il a fallu faire vivre pendant ce mois de campagne. Et malgré tout ça, vous avez répondu présent, vous nous avez porté pendant ce mois très intense, vous avez été des centaines une fois de plus, comme en 2019, quand on a sorti ce projet un 18 juin de nulle part, et que seule votre mobilisation a permis à QG de naître. Alors, à compter de ce soir, il vous reste encore 3 jours pour contribuer au succès de notre média indépendant. La campagne s'arrête officiellement vendredi à minuit. Mais nous pourrons très bientôt, quoi qu'il arrive, monter en visibilité, étoffer l'équipe, lancer des événements physiques dans vos villes. Alors soyez là encore ce soir, le lien va s'afficher tout au long de ce live. Cette ultime soirée de campagne en direct de la Maison de la Conversation à Paris, nous avons choisi une fois encore de la consacrer à la tragédie en cours au Proche-Orient, comme chaque semaine depuis un mois. Cette actualité, nous la lâchons d'autant moins qu'elle est traitée de façon extrêmement biaisée ou carrément invisibilisée sur les médias dominants et que notre rôle de média indépendant est donc de la traiter sans relâche. Lors de notre dernier direct, c'était lundi dernier, une trêve était en cours et nous avions encore l'espoir avec Ronnie Broman, avec Georges Malbruno et tous les autres qu'elle se transforme en cessez-le-feu. Cet espoir ce soir est mort. Les bombardements ont repris intensément depuis le week-end dernier. C'est à nouveau la terreur et l'effroi à Gaza et aucune sortie de crise ne se dégage. Pour en parler ce soir à mes côtés en direct, de grands connaisseurs du dossier sur QG, laissez-moi vous les présenter. Et tout d'abord, Benjamin Barthes. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir.
Vous êtes chef adjoint du service international du Monde. Vous avez été longtemps en poste à Ramallah et à Beyrouth. Oui. Vous avez obtenu, je le dis, même si vous êtes modeste, en 2008, le prix Albert Londres, le plus prestigieux d'entre tous pour un journaliste. Et cela pour vos articles sur la bande de Gaza, c'est dire si vous savez de quoi vous parlez ce soir. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Également avec nous ce soir, Belyg Nabli. Bonsoir.
Bonsoir.
Belyg, vous êtes professeur en droit public à Paris 12 et vous êtes aussi professeur à l'École des mines de Paris. Vous êtes également le fondateur du site d'actualité Chronique avec un K que l'on peut suivre notamment sur Twitter. Vous êtes régulièrement invité, en tout cas jusqu'ici, sur les chaînes d'information en continu au sujet de Gaza, mais pas seulement, au sujet aussi de l'actualité française. Merci d'être avec nous ce soir.
Merci à vous.
Également avec nous ce soir, Sylvain Sipel. Bonsoir.
Bonsoir.
Les dames ne seront pas en reste ce soir. Rassurez-vous, Sylvain. Sylvain, vous êtes un grand connaisseur, vous aussi, de la situation au Proche-Orient. Actuellement, vous êtes chroniqueur au 1 Hebdo d'Éric Fotorino et vous êtes journaliste sur Orient 21, mais vous avez bien sûr un long parcours journalistique. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres sur la question, parmi lesquels « L'État d'Israël contre les Juifs ». C'est assez récent, c'était en 2021, aux éditions La Découverte. Et enfin avec nous ce soir, Sandrine Rousseau. Bonsoir.
Bonsoir.
Députée Europe Écologie Les Verts et désormais habituée des plateaux de QG, soutien également de notre campagne. Merci à vous, Sandrine, d'être avec nous ce soir. Et tout de suite, bien sûr, nous passons à la situation et au débat avec cette première question.
On pensait, il y a une semaine à peine, que les bombardements seraient difficiles à reprendre après la trêve, après les images d'émotion, les otages libérés, les prisonniers libérés. Mais ils ont repris, et ils ont repris au bout de 5 jours, si je ne commets pas d'erreur. Ils se concentrent désormais sur le sud de la bande de Gaza. Ils sont toujours aussi meurtriers. Alors, je vous pose la question, Benjamin, peut-être tout d'abord. Que reste-t-il de la bande de Gaza à l'heure où nous parlons ?
Écoutez, le dernier chiffre qui remonte à déjà une semaine ou deux, même plus, c'était que 45% du bâti, des habitations dans la bande de Gaza avaient été soit complètement détruits, soit partiellement détruits. Mais ça, c'était un chiffre qui a été donné par les Nations Unies il y a déjà quelque temps, et qui était surtout, avant la trêve en tout cas, et qui était surtout, le résultat d'un décompte d'une offensive qui se concentrait sur le nord et le centre de la bande de Gaza. Aujourd'hui, depuis une semaine, ce qu'on voit, c'est que cette offensive, elle s'est étendue au sud de la bande de Gaza, et que dans cette deuxième phase d'opération, l'armée israélienne reproduit absolument le mode opératoire qu'elle avait suivi jusque-là dans le nord de la bande de Gaza, c'est-à-dire un mode qui est à base de bombardements extrêmement massifs. Le mot massif est presque désormais euphémistique, hein, parce que ce qu'on voit, c'est véritablement effrayant, qui sont menés au nom de la guerre contre le terrorisme, hein, au nom de l'éradication du Hamas, mais qui, en pratique, aboutissent à une guerre contre le peuple palestinien. Hein. C'est à peu près ça ce qui se passe actuellement sur le terrain, parce que ces bombardements sont indiscriminés, parce que l'opération antiterroriste qui a été vendue à la communauté internationale est en fait une opération de revanche aveugle et une opération de punition collective, et que cette opération est jalonnée en permanence de ce qu'on doit bien appeler des tueries et des massacres.
Je vous pose la question à vous tous. Que reste-t-il, selon vous, de la bande de Gaza aujourd'hui ?
L'image qui me vient à l'esprit, c'est celle que j'ai pu utiliser aussi, à savoir que Gaza incarne un peu le cimetière du droit international, parce que ce qui a été rappelé du point de vue factuel correspond aussi à des qualifications graves en droit international. Les bombardements massifs et indiscriminés qui frappent donc concrètement les civils. Il faut rappeler d'ailleurs, de ce point de vue-là, que 70% des victimes aujourd'hui sont des femmes et des enfants, et 90% des victimes globales de ces bombardements sont des civils. Donc derrière ce bilan, donc, on a affaire à ce qu'on appelle des crimes de guerre, et parfois même à des crimes contre l'humanité, s'agissant de ces massacres qui visent de facto des civils. Et là, pour le coup, c'est problématique tant pour Israël, parce que c'est un État qui se présente officiellement comme un État de droit démocratique, et c'est un problème également pour ses alliés stratégiques, que sont les États-Unis et les puissances européennes, qui officiellement, formellement, affichent une adhésion, justement, de ce qu'on appelle l'ordre international libéral, qui est contesté par les Chinois et les Russes, mais qui, au regard de ce comportement qui consiste à ne pas condamner, ou du moins à ne pas sanctionner le comportement d'un tel allié, place ces puissances européennes, occidentales, plus largement, dans une position de contradiction qui les affaiblit tant moralement que politiquement. Parce que les deux sont liés, tant en politique nationale ou interne, qu'en politique internationale. Les relations internationales, c'est pas que du cynisme. À un moment donné, lorsque vous êtes incohérent, vous vous affaiblissez. Votre parole porte moins. Il y en a un, là, actuellement, qui pâtit de cette équation politique, c'est Emmanuel Macron. Le fait qu'il ait hésité sur la tonalité et le discours à tenir sur un laps de temps relativement court explique en grande partie le caractère quasiment inaudible de ce qu'il peut dire aujourd'hui, parce qu'il a dit pratiquement une chose et son contraire en quelques jours suite aux attaques du Hamas le 7 octobre. Donc voilà, la cohérence, c'est important en relations internationales, et le fait que les puissances occidentales ne soient pas cohérents avec les principes et valeurs qu'elles affichent traditionnellement à travers ce conflit, les affaiblit in fine.
Sandrine Rousseau, qu'est-ce que vous pensez de la position de la France depuis l'attaque du 7 octobre et,
Catastrophique. Monsieur évoquait
les palinodies du pouvoir.
Elle est catastrophique. Catastrophique parce qu'il y a eu des messages contradictoires qui ont été envoyés, ça a été dit, y compris par des personnages différents de l'État. Je rappelle quand même que quand Yael Braun-Pivet est allée en Israël, elle a posé un soutien inconditionnel à Israël en tant que présidente du Parlement français, alors même qu'elle n'avait pas ce mandat-là du Parlement, quoi. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui de manière politique sur la bande de Gaza, de manière politique française, c'est est-ce que c'est un but de guerre ou pas ? Et en fait, je trouve que Emmanuel Macron aurait la responsabilité de poser cette question à Israël. Est-ce que la bande de Gaza est un but de guerre ou pas ? Est-ce que, quel est votre objectif ? Quel est l'objectif de l'État israélien ? Et quelles sont les limites que l'État israélien se fixe pour l'atteinte de cet objectif ? Et en fait, aujourd'hui, le discours officiel, c'est de dire libération des otages et éradication du Hamas. Mais en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire, véritablement.
Dans l'ordre inverse.
Et on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, éradication du Hamas. Et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sache exactement ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les militants du Hamas ? C'est les chefs du Hamas ? C'est qui, en fait ? Éradication dans les esprits des Palestiniens du Hamas, ce n'est pas du tout la même chose et ça n'a pas les mêmes implications en termes d'action. Et surtout, quelle est la limite que se fixe Israël dans l'atteinte de cet objectif. Et est-ce que c'est compatible avec le droit international ? Manifestement, ça ne l'est pas, il n'y a pas de doute, mais la voix de la France est d'une faiblesse inouïe pour le dénoncer.
Sylvain Sipel, alors là, on rejoint un de vos domaines de compétences totales. Le véritable but, le véritable objectif d'Israël derrière celui affiché officiel d'éradication du Hamas, qu'est-ce que c'est ? Parce que je suivais une de vos interventions récentes. Vous aviez l'air, en effet, de penser qu'il était tout autre.
Il y a quelque chose de très difficile à comprendre, qui ne date pas d'hier, qui date, je pense, quasiment des débuts du sionisme. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les Israéliens ne disent ce qu'ils entendent faire. Et la raison est simple. La raison, c'est que... Vous savez, on dit toujours... Enfin, on dit toujours. Clausewitz disait « La guerre, c'est la continuation de la politique... par d'autres moyens. Ben, chez eux, c'est l'inverse. La politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ils savent ce qu'ils veulent fondamentalement. Le plus de terres possible, le moins de Palestiniens possible. Voilà, ça c'est la base.
Quand vous dites « ils », vous parlez du pouvoir.
Israéliens, les pouvoirs israéliens, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, jusqu'à présent. Quels qu'ils soient, de droite, de gauche, du centre. C'est ça. Le rêve, l'idéal, ce serait le moins de Palestiniens possible et le plus de territoire. Et ça, c'est pas facile, c'est pas simple, etc. Donc, pourquoi c'est la guerre qui fixe la politique ? C'est la guerre parce que quand on commence une guerre, on ne sait pas comment elle se finit. Et selon la manière dont elle s'est finie, des fois ça se finit très bien, 67, des fois ça se finit pas bien. 73, Sadat attaque Israël. Israël gagne la guerre, mais Sadat gagne politiquement. Puisque, 5 ans plus tard, Begin signe la restitution du Sinaï. Et politiquement, c'est Israël qui a perdu. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais l'idée, c'est que la force va imposer une réalité, et ensuite on voit si on peut garder, avancer, on prend. Si on ne peut pas, on le voit, on recule. C'est ça la logique. C'est pas on part en guerre parce qu'on a tel objectif. On part en guerre parce que la guerre va fixer les objectifs qu'on peut obtenir. Comment dire ?
Puisque vous parlez de situation guerrière, vous la sentez justement comment la situation pour Israël ?
Il n'y a pas de situation guerrière. On ne peut pas dire que c'est une situation guerrière. Il y a un pays qui bombarde une population. Il y a des soldats israéliens qui meurent, qui sont au sol et qui meurent. Il y en a peu, mais il y en a. Et il y a quelques soldats qui meurent. Mais c'est assez étonnant, parce qu'en général, les Israéliens disent le nombre de soldats qui meurent, etc. Là, un jour oui, un jour pas, on ne sait pas exactement combien il y en a eu. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais si vous comparez au nombre de Palestiniens qui sont morts, je ne sais pas combien il y en a. Il y en a officiellement 15 000 ou un peu plus de 15 000 aujourd'hui. 16 000 et quelques qu'ils donnent aujourd'hui. Mais on ne sait pas combien il y a de gens sous les décombres. On ne sait pas tout ça. Bon, on saura... dans le temps.
Alors, ça fait plusieurs fois que le pouvoir israélien annonce une offensive terrestre. Netanyahou l'a encore dit il y a quelques jours.
Oui.
Ou pas, cette offensive terrestre? Elle aura lieu? Elle prendra quelle forme?
On est dans l'offensive terrestre, là, maintenant.
Oui.
Les troupes israéliennes sont à Khan Younes, elles sont à Shujaïa, elles sont à Jabalia, elles sont à Gaza. On a vu cette vidéo, il y a deux vidéos qui m'ont particulièrement frappé ces derniers jours. Il y a d'abord eu des images de ce quartier de Gaza, à l'est de Gaza, un quartier qui s'appelle Shujaïa, qui avait déjà été extrêmement meurtri pendant la guerre de 2014, où il y avait eu vraiment une hécatombe. Et là, il y a quelques jours, l'armée israélienne, pour éliminer le chef du bataillon local du Hamas, a bombardé un quartier entier, un bloc d'habitation, les sources locales disent 50 immeubles, de manière extrêmement intense, extrêmement violente. Et la protection civile de Gaza, qui s'est rendue sur place, a tout d'abord retiré des décombres 60 cadavres. Ensuite, il y a eu des frappes à nouveau, donc ils ont dû évacuer les lieux. Donc ils n'ont pas pu poursuivre l'extraction des cadavres. Mais ce que la protection civile de Gaza dit, c'est qu'il y avait, au nombre de personnes manquantes à l'appel, il y a possiblement plusieurs centaines de morts, 100, 200, 300. On ne sait pas et on ne saura pas avant longtemps, parce que dans la situation actuelle, il est impossible de faire un travail de secouriste à peu près normal. Et ça devient de plus en plus compliqué pour les services de santé de la bande de Gaza de tenir le décompte des morts. Donc il y a eu cette frappe extrêmement violente qui rappelle une précédente frappe. C'était à la fin octobre, où là encore, pour éliminer un responsable du Hamas, l'armée israélienne a déchaîné un feu, une puissance de feu absolument disproportionnée. C'était à Jabalia, et à Jabalia, d'après un collectif d'enquête britannique qui s'appelle Air Wars, il y avait eu 126 morts. Donc, rebelote là pour Shujaïa, à peu près le même scénario. Les images qu'on a vues sont proprement sidérantes. Hein. C'est un paysage lunaire complètement dévasté, avec des cratères de plusieurs dizaines de mètres, 10, 15 mètres plus précisément. Et puis l'autre vidéo extrêmement frappante, c'était et qui montre que les soldats sont à pied d'œuvre. Hein, c'est dans la bande à Gazaville, les troupes israéliennes ont fait sauter le palais de justice de la bande de Gaza, un immense bâtiment qui a été construit avec l'aide internationale. Et ils l'ont plastiqué, ils l'ont dynamité, et puis hop, le truc est parti en fumée. Donc on voit bien que, au-delà de l'objectif antiterroriste affiché, il y a une volonté de déconstruire l'infrastructure de la bande de Gaza et de déconstruire, le pouvoir politique palestinien à Gaza.
Alors oui, une réaction, et puis après j'ai une question à ce sujet.
Oui. Le rappel des faits, encore une fois, la description de ces destructions, encore une fois, correspondent à des qualifications assez claires. Ce sont des crimes de guerre. Mais en réalité, pour bien saisir la gravité de ce qui se passe, c'est que pour en arriver là, il faut qu'à la base, il y ait une entreprise de déshumanisation de l'autre. C'est impossible de bombarder sur un temps aussi long des civils en sachant consciemment qu'on bombarde des civils. Parce qu'il y a une doctrine militaire qui est mise en œuvre actuellement.
Elle a un nom, elle est connue. Oui. Elle est.
À savoir.
Elle s'appelle la doctrine dans le jargon. Je parle de l'armée israélienne. Hein, elle s'appelle la doctrine Dahiya. Dahiya, c'était un quartier de Beyrouth dans la guerre en 2006 qui a été bombardé par les Israéliens, qui a été lourdement bombardé par les Israéliens. Un quartier chiite. Donc il tapait, parce que la guerre se faisait avec le Hezbollah, c'était un quartier qui était acquis au Hezbollah, c'est pour ça qu'ils l'ont bombardé à Beyrouth. Ils ont perdu cette guerre, il ne faut jamais oublier, ils l'ont perdu cette guerre, ils l'ont perdu militairement en plus, cette guerre. Mais ce qui est important, c'est que 2 ans plus tard, quelqu'un qui avait une position très importante et qui va devenir chef d'état-major 8 ans plus tard, a établi une doctrine. Et cette doctrine dit que dans ce qu'on appelle, encore une fois, en jargon militaire, une guerre, comment dit-on, pas déséquilibrée, mais
asymétrique.
Voilà. Dans les guerres asymétriques, eh bien, c'est la théorie de la guerre au terrorisme. C'était à peu près la même chose. Eh bien, les méchants, les terroristes, se cachent dans la population civile. Mmh. Il n'y a aucun autre moyen de vaincre le terrorisme. Il n'y a pas d'autre moyen. Le seul moyen, c'est d'éradiquer totalement et de frapper les populations. Le général Eisenkot, qui aujourd'hui est dans l'équipe de Netanyahou,
le cabinet de guerre,
eh bien, il a fait de cette doctrine la doctrine de l'armée israélienne, qui dit que dans les situations de guerre asymétrique, il faut frapper lourdement les populations civiles pour une raison simple. En plus, c'est didactique. Mm-hmm. C'est pour faire comprendre aux gens que voilà ce qui arrive si vous prenez le parti des méchants. Mmh. Et donc, si vous, par exemple, on vous bombarde, bah vous n'allez pas en vouloir à celui qui vous bombarde. Non, vous allez vous en prendre à vos propres dirigeants. C'est logique, non? Eh bien, voilà, c'est ça la théorie.
Mais est-ce que c'est le cas, d'ailleurs, vraie question.
Mais c'est ça qui est fait pratiquement la première fois.
Oui, mais est-ce que les Palestiniens se retournent contre le Hamas? C'est la question que je vous pose.
Écoutez, je pense, à mon avis, que les Palestiniens de Gaza, en ce moment, se retournent vers personne, sinon ceux qui peuvent les aider à manger, à trouver à manger, à se soigner, à dormir, à avoir un logis, à faire attention à ne pas boire de l'eau, etc. etc. Mm. C'est à ça que pensent les Palestiniens. Je ne sais même pas s'ils pensent au Hamas, à d'autres. En tout cas, avant que cette guerre commence, le Hamas n'était pas en très bonne position à Gaza, mais il n'y avait pas d'adversaire, en tout cas structuré. Donc il était le parti principal de cette bande de territoire. C'est un fait. Et donc... Non, je vous laisse la parole tout de suite. Mais
tout le monde veut prendre la parole. Il y a quand même l'opinion mondiale est en train de se mobiliser dans la rue, dans plein de capitales, en faveur des Palestiniens. Il y a quand même des démonstrations de force. En tout cas, ce n'est pas la même tonalité sur les plateaux de télévision dans le monde et dans la rue. Il y a quand même beaucoup d'empathie à l'égard.
L'opinion internationale est empathique avec les Palestiniens.
Voilà.
C'est certain.
Voilà. Et il y a un mot dans ces manifestations qui est en train de s'imposer partout. C'est un mot énorme. C'est le mot de génocide à Gaza. Alors, je voulais vous poser la question ce soir. Je vais commencer peut-être par Sandrine. Est-ce que c'est un mot adapté pour décrire ce qui est en train de se passer là-bas? Est-ce qu'en somme... derrière l'ambition affichée d'éradiquer le Hamas et derrière les bombardements massifs auxquels on assiste et derrière l'absence d'aide humanitaire digne de ce nom possible là-bas, est-ce qu'il y a un projet de cet ordre? Est-ce que les manifestations, les pancartes qu'on voit dans toutes les capitales mondiales, que ce mot est exagéré par rapport à la situation? Est-ce qu'il vous semble juste? Est-ce qu'il vous parle? Voilà.
Dans tous les cas, on doit absolument tout faire pour ne pas en arriver à un génocide. Est-ce qu'on y est déjà ou pas? Il y a un nombre de morts civiles qui est un aveuglement dans les frappes qui sont réalisées qui en tous les cas interpelle le droit international. Ça, je pense qu'on doit pouvoir le dire. Après, la question, c'est justement comment fait-on pour ne pas en arriver à un génocide? Et là, c'est en cela que je disais tout à l'heure que l'action de la France me semble très faible. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de parole très forte de la part d'Emmanuel Macron. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais on n'a pas non plus, du moins ça n'est pas perceptible, de stratégie au sein de l'Europe pour que l'Europe ait une voix, ou si ce n'est l'Europe, au moins une partie de l'Europe. Enfin, en fait, on ne sait pas quelles sont les alliances qui sont en train d'être tentées pour faire en sorte qu'il y ait un arrêt à la situation. Et moi, je suis très frappée d'une chose, mais peut-être allez-vous pouvoir me l'expliquer ce soir, parce que sans doute avez-vous des éléments de réponse, c'est pourquoi Ça n'est qu'aujourd'hui qu'on annonce des sanctions financières contre les responsables du Hamas. Et pourquoi cette sanction économique qui a été utilisée contre la Russie dès l'envahissement de l'Ukraine, dès le premier jour de l'envahissement de l'Ukraine, pourquoi cette sanction économique n'a pas été utilisée en appui quelque part de la position d'Israël qui consiste à vouloir s'attaquer au Hamas en disant on vous aide sur le plan économique, mais par contre on limite les morts civiles sur la bande de Gaza. Et en fait, pourquoi cet outil économique, dont on sait quand même que, certes, il n'est pas parfait et très efficient, mais il a quand même une efficacité, surtout à très court terme, pourquoi il n'a pas été utilisé? Et en fait, on a l'impression d'une espèce de tétanie de l'Europe et des pays...
J'avoue que je n'arrive pas très bien à comprendre. Pourquoi l'Europe n'a pas décidé de prendre des mesures économiques contre le Hamas?
Oui.
Alors, si je peux me permettre...
Des dirigeants du Hamas, en tous les cas. Ouais.
Je peux répondre peut-être en deux temps. D'abord, sur le génocide. Alors, il y a naturellement un débat autour de la pertinence ou pas quant au fait de savoir si on peut utiliser ce mot qui est chargé symboliquement de manière particulièrement importante. Et heureusement, là, pour le coup, il y a des définitions qui existent en droit international et qui supposent donc, pour qu'on puisse parler de génocide, à la fois, finalement, l'existence de crimes matériels qui ont été rappelés, en fait, les bombardements sur les populations civiles, mais également le siège total qui a été imposé par l'armée israélienne à l'encontre des civils de Gaza en ne pouvant plus accéder à des besoins de première nécessité. Toute cette réalité matérielle est constitutive du premier élément, mais vous avez surtout besoin d'un deuxième élément qui est l'intentionnalité. Il faut que finalement les dirigeants politiques et militaires qui sont à la tête de l'armée israélienne aient en fait, ou soit mû par l'idée de perpétrer un génocide, c'est-à-dire de vouloir éradiquer un groupe, là en l'occurrence les Palestiniens en tant qu'ensemble humain. Est-ce que cette volonté existe?
Je pense que c'est le moment de rappeler quand même les paroles extrêmement graves qui ont été prononcées par certaines personnes qui ne sont pas des pions ou des personnages secondaires ou tertiaires, puisque le ministre de la Défense israélien est allé jusqu'à dire « nous combattons des animaux humains et agissons en conséquence ».
Oui, alors lui, il y a une ambiguïté. Est-ce qu'il visait les acteurs du Hamas, les membres du Hamas ou les Palestiniens dans leur ensemble? Vous avez d'autres... propos qui pourraient relever précisément de ce critère de l'intentionnalité. Vous avez un ministre du gouvernement qui a été suspendu, mais pas exclu, et qui a parlé de lâcher une bombe nucléaire sur Gaza. Donc, volonté d'éradication de tous les Gazaouis à travers un tel acte. Vous avez justement d'autres déclarations qui relèvent précisément de cette volonté ou de cet esprit de déshumanisation des Palestiniens. Et je pense, de mon point de vue, que c'est la clé, parce que cette déshumanisation des Palestiniens, c'est ce qui va aussi... Enfin, c'est ce qui explique en grande partie le passage à l'acte aujourd'hui, mais c'est ce qui va rester aussi après. Et qu'est-ce qu'on peut faire politiquement après avec un partenaire qui nie d'une certaine manière non seulement votre existence politique, donc le droit à l'autodétermination, mais presque votre propre humanité? Pour moi, c'est plus que problématique pour construire une solution politique.
Le mot génocide, Benjamin.
Oui, je partage ce qu'a dit Bélire. Il y a effectivement un débat en cours au sein de la communauté des juristes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que un groupe de rapporteurs des Nations Unies, c'est-à-dire des experts de certains conflits, de certaines zones de conflits, ont estimé dans un communiqué qui a été diffusé il y a quelques semaines qu'il y avait un risque de génocide. Ils ont tiré cette sonnette d'alarme.
800.
Oui, voilà. C'est un groupe d'experts importants. D'autres spécialistes sont en désaccord avec ce point de vue, mais encore une fois, c'est la justice internationale qui devra trancher.
Qui devrait,
voilà. Il faut si tant est que cette justice internationale puisse être saisie. Enfin, elle a été saisie, mais si tant est qu'elle puisse s'exprimer et travailler sur ce dossier, ce qui n'est pas garanti.
Je dois dire quelque chose. C'est que... Enfin, je suis d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, et en particulier avec le fait qu'il y a une intentionnalité de faire disparaître une population. C'est ça, un génocide. Donc, Ça, c'est très difficile aujourd'hui à considérer, même si le fait qu'on affame des gens, qu'on leur donne de l'eau qui n'est pas de l'eau potable, etc., enfin, qu'on les oblige à boire de l'eau non potable, des choses dans ce genre-là, vont dans ce sens-là. Mais on ne peut pas, à ce jour, considérer ça. Et surtout, considérer que c'est un acte de génocide. Mais ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est que ça brouille totalement le débat. C'est-à-dire qu'on se focalise sur est-ce que c'est un génocide, est-ce que c'est pas un génocide. Il y a autre chose, est-ce que les Israéliens sont des nazis, est-ce qu'ils sont pas des nazis. Et moi, je préfère beaucoup discuter de qu'est-ce qui
est partie.
Quelle est la réalité
Hamas
des choses.
Sont-ils des terroristes ou pas?
Oui, parce que Netanyahou passe son temps à dire c'est les nazis, c'est Daesh. Ça a été sa première réaction. Ouais. Dans son premier discours, il a dit « ils sont la réincarnation des nazis et c'est Daesh ». C'est une erreur politique par ailleurs, mais peu importe. Mais c'est l'instrumentalisation du nazisme qui est en jeu. Et quand on va sur ce terrain-là, on est sûr qu'on ne va pas discuter de qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Et moi, ce qui m'intéresse, pas seulement comme journaliste, c'est de me dégager un petit peu des débats ouateux et de regarder qu'est-ce qui se passe dans la réalité.
Ouais. Alors, non, mais dans la réalité, justement, j'en reviens au propos de Benjamin. Vous sous-entendiez que la parole de l'ONU et de ses observateurs était un petit peu discréditée.
Je disais qu'il y a un débat au sein de...
Moi, je le prends pour ma part, en tout cas, puisque vraiment, on a le sentiment que les organisations, que les humanitaires internationales, oui, que l'ONU, que tous ces gens-là, que leur parole ne vaut rien. Nous, on y a eu droit, même sur ce plateau ici, chez QG, que leur estimation du nombre de morts n'était pas fiable et que ces gens étaient habités par une idéologie que visiblement l'ONU était en train de basculer du côté obscur de la force. Et il y a une délégitimation extrêmement grave en cours de ces institutions, dont je rappelle quand même qu'elles étaient le pilier après la Seconde Guerre mondiale de la reconstruction d'un ordre pacifique mondial. Donc tout ça n'est pas un détail et se fait tous les jours aujourd'hui sur les plateaux de télévision de façon assez ordinaire. Alors qu'en plus, ces gens ont perdu énormément de troupes, si on peut dire, enfin de membres, puisqu'il y a à peu près une centaine de membres du SAF de l'ONU qui sont morts dans les bombardements, alors que ce sont des gens qui risquent leur vie pour apporter une aide humanitaire minimale à des populations en grand danger.
Oui, bien sûr. Enfin, ce travail de délégitimation, comme vous dites, ça fait partie de la guerre de communication habituelle auquel se livrent les belligérants et en l'occurrence les autorités israéliennes. C'est ce procédé rhétorique classique. Quand on veut délégitimer un message, on délégitime le messager. Tout ça est assez cousu de fil blanc. Sur l'ONU, il y a effectivement un tir de barrage qui vise essentiellement l'UNRWA, qui est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui est accusée des pires turpitudes, mais tout ça sont une espèce de cabale qui se poursuit depuis des dizaines d'années sur l'UNRWA et qui mérite pas d'être qu'on s'attarde trop dessus. Ce qui est terrible, c'est que effectivement, à travers l'attaque de l'ONU, ce qu'on attaque, c'est l'ordre international, c'est comme vous disiez, cet héritage de l'après Seconde Guerre mondiale qui, de manière extrêmement imparfaite, permettait de tracer des lignes rouges et de dire ça peut se faire, ça peut pas se faire. Et là, on est en train d'assister à un détricotage absolument effarant de tout ce qui restait, qui tenait bon an mal an. Et ça va avoir des répercussions absolument terribles dans Israël-Palestine, mais dans le monde arabe, au Proche-Orient en particulier. Prenez le cas des libéraux, comme on les aime en Occident, dans le monde arabe, les défenseurs des droits de l'homme notamment. ces gens se retrouvent dans une situation absolument intenable. Parce que d'un côté, ils sont pris entre le marteau des pays occidentaux qui vont commencer à éplucher leurs déclarations sur la Palestine, à y traquer éventuellement quelques formulations qui leur déplaisent. Certaines ONG arabes ont déjà signalé que des financements internationaux et occidentaux leur avaient été retirés. Et puis de l'autre côté, il y a l'enclume des régimes arabes qui ont toujours dit, pour se protéger des critiques faites par ces ONG de défense des droits de l'homme, qui ont toujours dit « Non, vous savez, le discours des droits de l'homme, c'est l'hypocrisie occidentale, c'est le deux poids deux mesures, faut pas y croire, c'est... » Bon, voilà. Et là, le comportement des capitales occidentales est en train d'offrir sur un plateau la légitimation de ce discours des régimes arabes. Et pour tout ce que le monde arabe compte de libéraux, de personnes attachées à la défense des droits de l'homme, attachées à une bonne gouvernance, attachées à des modes au pluralisme, etc., pour ces gens-là, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer.
C'est d'autant plus grave que... En réalité, non seulement il y a cette hypocrisie qui est affichée au grand jour de l'universalité des droits de l'homme, parce que c'est ça le grand saut qualitatif de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est le principe de l'universalité des droits de l'homme à l'échelle internationale, pas seulement la Révolution française 1789, mais après la Seconde Guerre mondiale, considérer qu'il s'agit là d'un bien commun à l'échelle internationale. Le problème, c'est qu'en affichant et en assumant notre hypocrisie ou le décalage entre nos discours et notre comportement, c'est-à-dire nos politiques internationales, derrière, Russes et Chinois vont avancer, vont aller au-delà de cette contradiction en disant « Mais en vérité, ce n'est pas seulement l'universalité des droits de l'homme qui est factice, c'est les droits de l'homme. » Et là, franchement, c'est vraiment ce qui se joue aussi avec ce conflit. C'est que derrière... La fin ou la volonté côté occidental de ne plus en fait assumer le discours de la défense des droits de l'homme, plus personne l'assume aujourd'hui. Eh bien derrière, en fait, vous avez des puissances qui vont aller au-delà pour remettre carrément en cause l'idée même de droits de l'homme. Et c'est ce qui est dit en filigrane dans les discours de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping. Et c'est en cela que c'est aussi, enfin, cette guerre à Gaza sera une catastrophe internationale.
Oui, là, on est en train d'assister à quelque chose qui est qu'il n'y a pas plus d'acteurs neutres sur un conflit, en fait. Où il n'y a pas de personnes ou d'institutions qui soient reconnues comme étant des acteurs internationaux en capacité d'observer de manière objective ce qui se passe sur un territoire. Et d'ailleurs, sur Gaza, il n'y a pas ces acteurs internationaux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de presse. Vraiment des courageux.
Voilà. Si, il y a la presse arabe.
Oui, il y a la presse arabe.
Il faut le dire.
Il y a la presse arabe.
Il faut saluer leur travail. C'est les seuls qui sont là-bas.
Et il n'y a pas d'observateurs.
C'est un très lourd tribut au bombardement.
Très gros.
Mais on l'a vu d'ailleurs en direct pour certains journalistes d'Al Jazeera. Mais il n'y a pas d'observateurs internationaux qui sont sur place. Et ça n'est pas à la demande non plus de pays tiers que des observateurs pourraient venir sur place. Donc en fait, on est presque dans une incapacité à définir ce qui relève non seulement du droit de la guerre, du droit international, mais aussi de ce que l'on peut imposer dans un conflit. Et en fait, c'est presque un tournant en réalité. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on est dans cette incapacité, dans cette tétanie, je parlais de tétanie tout à l'heure, à poser les mots et à surtout défendre des institutions en capacité de voir sur place et d'enquêter et de poser les termes. Et en fait, là, on se joue quelque chose d'assez fondamental, dont je ne sais pas aujourd'hui comment on pourrait le retrouver, qui est un affrontement non seulement de blocs d'intérêts différents, mais aussi de blocs de valeurs, vous venez de le dire, et dans lequel nous sommes, dans une faiblesse d'affirmation de ces valeurs qui aura forcément des conséquences. Forcément, y compris chez nous d'ailleurs, je pense, y compris à l'intérieur même de nos frontières.
Alors Sandrine, puisque vous avez la parole, je souhaiterais vous entendre à ce sujet. On sait que La guerre israélo-palestinienne actuelle, enfin les bombardements israéliens consécutifs à l'attaque du 7 octobre, ont provoqué un véritable éclatement à gauche de la NUPES. On sait que
il y avait déjà eu des faits graves.
Pour résumer à grands traits votre position telle qu'on la voit de l'extérieur, vous avez eu un pas de recul par rapport à l'opposition de Jean-Luc Mélenchon consécutive au 7 octobre, et vous avez tenu aussi à participer à cette marche contre l'antisémitisme, enfin en tout cas en partie à Paris, en tout cas manifester votre présence. On est absolument certain que cette affaire va laisser de très grosses traces à gauche, pas seulement entre les gens, mais entre la gauche et le peuple aussi. Comment vous voyez la suite et comment vous interprétez, qu'est-ce que cette affaire dit de la gauche aujourd'hui en fait?
J'ai combien de temps pour répondre? ça dit à quel
point... Un certain temps.
Non mais en fait ça dit qu'il y avait un piège qui était tendu et qu'on n'a pas réussi à l'éviter de manière collective. Quelle que soit la décision qu'on prenne à la fin. Moi, j'ai pris la décision d'aller dans cette manifestation contre l'antisémitisme en me disant que je n'allais pas laisser le terrain à l'extrême droite. Mais ça a été une hésitation. Honnêtement, mon premier réflexe, ça a été de dire jamais je défile avec l'extrême droite. Et puis après, je me suis dit, en fait, on ne va pas leur laisser ce champ-là. Bon. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai pas pris la bonne décision? Ça, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, je pense que personne ne peut le savoir, et l'histoire nous dira. Mais ce qui est vraiment très manifeste, c'est à quel point il y a eu vraiment une prise du pouvoir politique, symbolique en tous les cas, par non seulement la droite, mais l'extrême droite dans cette séquence. Et comment la gauche n'a pas été en capacité de porter un discours qui, certes, aurait pu avoir des différences, mais qui pouvait se retrouver quand même sur l'essentiel, qui était notamment le respect du droit international, le fait qu'on s'assure que la parole de la France soit pour un cessez-le-feu d'abord, puis une paix, puis deux États, puis l'arrêt de la colonisation. Enfin, tous ces mots-là, on aurait très bien pu les porter ensemble. Il n'y avait aucun problème à les porter ensemble. Simplement, on s'est laissé embarquer dans quelque chose qui nous a divisé et divisé profondément. Et en fait, aujourd'hui, la question, c'est comment fait-on pour retrouver la voix d'une parole de gauche qui a du poids en France. Et là, je vous avoue qu'aujourd'hui où je vous parle, je ne sais pas trop comment nous allons réussir à faire ça.
Mais beaucoup de gens, même à gauche, je parle de la gauche, ont du mal à s'expliquer la véhémence des premières interventions du côté de... Je dis pas la France insoumise, parce que c'est plutôt Mélenchon et son premier cercle. Vous, comment vous l'interprétez? C'est quoi votre interprétation? Il y a plein d'interprétations qui circulent, dérives personnelles, ou clientélisme ou autre. Vous voyez ça comment?
Non, moi je pense que c'est... je veux pas faire de psychologie de comptoir, donc non, si non, on regarde l'effet politique...
On peut faire de la politique.
Non, mais l'effet politique, c'est que, en fait, le 7 octobre même, on a eu ces alertes tous disant qu'il se passait quelque chose en Israël. Personne, dans les heures qui ont suivi l'attaque, n'ont été capables de dire véritablement ce qui était en train de se passer. Donc en fait, sur la base de cela, il y a eu deux interprétations qui... sur le moment pouvait très bien être posé, c'est soit des faits d'une extrême gravité, soit au contraire des faits qui n'étaient pas très différents de faits autres dans l'histoire des relations entre Gaza et Israël ou entre la Palestine et Israël. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu des positions qui ont été prises et sur lesquelles nous n'avons jamais réussi à revenir. Et en fait, LFI n'a pas voulu revenir sur sa position, dont le premier communiqué, qui je crois a été fait dans l'urgence, sans connaître tout à fait les tenants et aboutissants de ce qui s'était passé, était un communiqué qui minimisait quand même l'ampleur de l'attaque du 7 octobre, ou qui du moins n'en prenait pas complètement la mesure. Et en fait, derrière, ça a été une espèce d'engrenage. Et comme à gauche, nous n'avions pas, au sein de la NUPES, d'instance de discussion, d'instance de régulation, d'une instance où on pouvait réunir les chefs de parti ou les parlementaires pour se dire comment on rattrape le coup là dans les heures qui suivent en fait, et comment on fait en en sorte d'avoir un discours commun. Comme ces instances n'existaient pas, eh bien, ça a été une force centripète et tout le monde est parti de son côté. Et là, je pense que la leçon pour la gauche, en tous les cas, là, de cet événement, c'est que sur un événement d'une ampleur de cette nature, qui a des conséquences mondiales si importantes, nous ne pouvons pas ne pas avoir d'instance de coordination, nous ne pouvons pas parler sans avoir un minimum d'échanges. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins, on sait pourquoi les uns et les autres tiennent des positions, quoi. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas du tout le cas.
Bélic Nabil, vous vous attendiez à ce que la gauche explose sur une question pareille ?
Il y a
c'est
une historique.
Quelque chose qui vous a surpris ou pas ?
On peut pas être surpris, il y a une histoire complexe entre la gauche et Israël d'un côté, la gauche et la Palestine de l'autre, donc c'est pas très surprenant en soi. Par contre, cette séquence politique, elle est très intéressante parce que elle vient souligner la limite de ce que vous avez rappelé, vous, et qui est essentiel en tant que journaliste, à savoir partir des faits. C'est fondamental. Par contre, c'est pas suffisant en politique. À un moment donné, il faut qualifier les faits. En droit aussi. Je veux dire, on est face à des faits. On peut être d'accord sur leur existence matérielle. Mais à un moment donné, il faut les qualifier. En droit, international, s'agit-il d'un crime ou pas, etc. Mais aussi en politique. Et là, c'est là où il y a une confusion qui a pu apparaître assez, enfin, qui a dépassé pas mal de gens, à savoir ce débat, notamment sur la nature du Hamas. On pouvait aller assez rapidement sur la question en considérant notamment, enfin, en ne partant pas seulement du postulat qu'il n'existe pas de définition du terrorisme en droit international. Je veux dire, on n'attend pas ça d'un responsable politique. Il peut le souligner, mais c'est pas ce qu'on attend de lui. Je veux dire, moi, je peux le dire dans mon cours de droit international. Mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un responsable politique. Il peut néanmoins le dire et souligner aussi la complexité de la chose en disant le Hamas, au regard de cette attaque, a commis un acte de nature terroriste et c'est en même temps une organisation politique de résistance, etc. Et le fait qu'on ait été finalement presque piégé dans un débat qui n'était pas celui qui était le plus pertinent à ce moment-là, ouais, c'est une source de frustration en vérité.
Enfin, moi, je voudrais juste te dire quand même, aussi, parce que je vais sortir de ma réserve que pour l'instant j'applique avec beaucoup de scrupules, mais c'est que moi j'ai été en colère de ce moment-là. Enfin, je dois le dire, c'est parce que je ne l'ai jamais dit, donc je le pose ici, mais j'ai été en colère de ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce mot terroriste, eh bien finalement, nous nous sommes enfermés dans ce truc, et l'incapacité à poser ce mot nous a empêchés derrière d'avoir une voix unie sur la gauche. Et encore une fois, avec toutes les limites que vous dites, c'est-à-dire qu'on pouvait dire c'est un acte terroriste et derrière dire mais l'histoire du Hamas est différente et son action est différente, etc. Et qu'on pouvait poser les choses et moi j'aurais été d'accord ou pas d'accord, mais au moins on posait quelque chose qui permettait d'entendre le temps numéro 2. Et ce moment-là a été un moment où on n'a pas été en capacité de passer à l'étape numéro 2.
Sandrine, là vous évoquez le collectif, mais est-ce qu'il n'y a pas un péché d'orgueil, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un mauvais diagnostic de départ qui s'est transformé en péché d'orgueil derrière ? Est-ce que c'est parce que c'est pas l'ensemble de la gauche qui est engagé derrière ça ? Là, on parle de la réaction d'un individu et d'un premier cercle.
Non, mais oui, il y a eu de la part de Jean-Luc Mélenchon et de son premier cercle une volonté de ne pas poser ce mot. Et moi, j'ai eu des discussions à n'en plus finir avec des militants LFI pour justifier le fait qu'on pose pas le mot, etc. Enfin, moi, je pense que
c'est une conviction profonde ou pas, selon vous ?
Bah, après, il faut leur demander à eux. Moi, j'ai pas envie d'anticiper. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, quelle que soit leur conviction, si le fait de poser un mot règle la première étape et nous permet de passer à la seconde, alors je pense, et en tous les cas, c'est ma position, qu'il y a une responsabilité politique à le faire pour aller vers la seconde étape. Mais encore une fois, voilà, je ne suis pas dans la peau ni dans la tête ni de Jean-Luc ni de son cercle rapproché. Je dis juste que là, on a été dans quelque chose qui, pour moi, était très évitable en réalité. Était très évitable.
Et surtout que politique. Pardon, juste un mot pour dire. En fait, là où le bas blesse, de mon point de vue, c'est qu'en fait, politiquement, c'était pas convaincant. C'est juste ça, ce n'était pas convaincant. L'argumentation qui consistait à mobiliser un argument très formel, juridique, oui. Même entre juristes, on appelle ça faire du juridisme. Donc c'est trop, quoi. Ce n'est pas suffisant pour emporter la conviction. C'était d'autant plus frustrant que derrière, il y avait du côté notamment des LFI des arguments tout à fait significatifs et pertinents qui en réalité en plus s'inscrivaient dans une vieille tradition française gaulo-mitterrandienne qui a été incarnée après les attaques du 7 octobre d'abord par des responsables de LFI. Donc c'est aussi dommage pour eux parce qu'au lieu de pouvoir tenir un discours cohérent, audible et convaincant, ils ont peut-être perdu l'occasion dans un premier temps d'aller à l'essentiel, à savoir finalement renouer avec quelque chose de juste en vérité.
Sylvain Sifel.
Oui, je ne veux pas intervenir dans le débat de la NUPES parce que je ne suis pas militant ni rien.
Mais ce n'est pas un problème de militant.
Non, si, c'est un problème de militant. Il y a des problèmes internes.
C'est un problème de force.
C'est au-delà, malheureusement.
Ça va bien au-delà, parce que c'est quand même l'avenir des forces.
Je voudrais en parler au-delà. Je voudrais en parler au niveau de la gauche. Ce que je pense, c'est qu'au-delà de la NUPES, à gauche, il s'est passé un phénomène qui est très problématique, c'est-à-dire le poids de l'idéologie de la guerre au terrorisme. Dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais une parenthèse. La guerre au terrorisme, c'est un institut qui a commencé à monter en mayonnaise cette affaire, qui s'appelait l'Institut Jonathan. Et Jonathan était le frère de Netanyahou qui est mort dans une opération. Et donc, c'est une thèse qui fait de la notion de terroriste et de terrorisme une notion universelle. Tous. C'est pour ça que d'ailleurs, Netanyahou peut dire Hamas, Daesh, par exemple, c'est la même chose. Et elle a échoué lamentablement en Irak. Ça a été une calamité et ça a été une défaite américaine effroyable. Mais sur le plan idéologique, il faut reconnaître, c'est un succès de l'idéologie néoconservatrice américaine. Parce que cette idée, cette notion de guerre au terrorisme s'est imposée en particulier en France. Les gens ne font plus attention à ça. Mais quand on définit quelqu'un de terroriste, c'est comme si on avait tout défini. C'est sa seule définition. Il faut comprendre ce qu'est le Hamas, par exemple. Le Hamas est un mouvement qui est un mouvement religieux nationaliste. Ça a peu à voir avec Daesh. Vraiment peu à voir avec Daesh. C'est un mouvement religieux nationaliste. Après, historiquement, par exemple, ils ont commis un crime, et un crime effroyable, près de Gaza. Mais si on regarde historiquement les crimes qui ont pu être commis, par exemple en Algérie, par exemple en Indochine, par exemple au Kenya, contre les Britanniques, etc., 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 eh bien, ça ne modifie pas la réalité de ce qu'est le Hamas. Ce n'est pas mes copains. Mais la réalité, c'est que c'est un mouvement.
Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ne modifie pas la réalité de ce
La réalité, c'est que ce n'est pas un mouvement djihadiste qui ressemble à Daesh.
Ce n'est pas un mouvement djihadiste, mais ils s'en prennent quand même à 1200 personnes.
Bien sûr. Et vous savez ce qu'ils ont fait, le FLN ?
Dont une très, très grande...
Et vous savez ce qu'ils ont fait, le FLN ?
Majorité de civils.
Je le sais. Je répète, j'ai dit, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre grave. Ça ne modifie pas la nature de ce parti. C'est-à-dire... Mais il faut bien... Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à ce qui se passe. C'est-à-dire que dans la tradition des partis qui ont lutté contre le colonialisme, beaucoup ont opté pour la lutte armée. Tous ne l'ont pas fait. Et ceux qui ne l'ont pas fait ont plus et mieux réussi que ceux qui l'ont fait. Si je vois l'état de l'Algérie aujourd'hui, je me dis que... Voilà. Mais cela étant, ça ne changeait pas la nature de ces mouvements qui étaient des mouvements de libération nationale. C'est comme ça. Le Hamas ne sont pas des gens très sympathiques. Ils ont des idéologies effroyables. Mais cela étant dit, c'est un mouvement qui combat contre une oppression coloniale. C'est ainsi.
Des méthodes qu'on peut qualifier de terroristes.
Qu'on peut qualifier de tout ce qu'on voudra. Je serai le premier à dire... Il y a un grand papier dans Haaretz récemment qui montre qu'ils ont commis des crimes de manière assez massive, visiblement. Des viols de manière assez massive, visiblement. Donc, Il faut le dire, il ne faut pas chercher à le cacher. Mais la réalité, c'est que c'est un mouvement qui lutte pour une libération nationale. Il ne nous plaît pas. Mais vous savez, ce qu'on dit aujourd'hui du Hamas, il faut quand même tout le temps s'en souvenir, c'est exactement ce que, ce que Israël a dit de l'OLP pendant des décennies.
Ça, c'est pas tellement un argument.
Ah bon, mais peut-être, mais c'est ce que je pense.
Non, mais le truc, c'est que le Hamas est un mouvement qui est... Enfin, là, en l'occurrence, sur le 7 octobre, ils ont fait un nombre de morts important, avec quand même une cruauté dans la, la manière d'exercer, qui, enfin, de tuer, qui est reconnue. Et donc, en fait, au nom de quoi on ne qualifie pas ça de terroriste, en fait?
Enfin, mais moi, ça ne me dérange pas.
Mais on peut faire des arguments de toutes les manières sur savoir comment ça.
Mais vous n'avez pas compris, madame, apparemment. Moi,
j'ai bien compris.
Je ne dis pas qu'ils ne sont pas terroristes. Oui, mais... Pas du tout. Je dis qu'il y a terroristes et terroristes. Ce n'est pas une catégorie globale dans laquelle tout est inscrit.
Non, mais si à un moment donné, le débat politique. Non, ça permet pas de mieux comprendre, en fait, de ne pas le poser, quoi. C'est-à-dire que
c'est là où vous rejoignez, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une organisation qui, à travers cette attaque, peut être qualifiée pour le 7 octobre comme terroriste, mais ça ne doit pas neutraliser, en fait, le débat sur. Finalement, ce qui motive cette organisation, c'est la libération de la Palestine.
Donc, le Fatah a été catégorisé de terrorisme pendant des décennies.
Mais je pense que c'est peut-être ce qui a pu brouiller les rédacteurs, je ne sais pas, du fameux communiqué de la LFI, à savoir que si le mot si fort, si chargé.
Si mes souvenirs sont bons, c'était pas un communiqué. C'était pas le communiqué, pardon. C'était un tweet du compte de Jean-Luc Mélenchon.
Très bien, merci. Mais c'est la charge symbolique et l'appréhension de la charge symbolique de ce mot qui fait qu'à un moment donné, on craint de neutraliser le débat qu'on perçoit comme plus légitime, savoir... Voilà, c'est juste pour dire qu'en vérité, je pense qu'on est à peu près d'accord à la fois pour qualifier l'organisation et ne pas s'en tenir à cette qualification pour autant.
Mais pour que ce débat sur l'organisation... Et le débat sur la colonisation, le débat sur le statut des Palestiniens dans la bande de Gaza, etc., puisse se faire, il y avait aussi la reconnaissance de la gravité de ce qui s'était passé, qui était indispensable.
Vous revenez à ça, madame.
Et ça, je... Oui, mais c'est ça qui a été en jeu les jours qui ont suivi. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression, certains et beaucoup, dont moi, ont eu l'impression qu'il n'y avait pas de reconnaissance de la gravité de ce qui s'était passé. Et tant qu'on ne reconnaît pas la gravité, alors on ne peut pas passer à l'étape suivante, c'est tout.
Alors, une question quand même extrêmement sensible, notamment pour Sandrine Rousseau, puisque... vous avez, je le dis parce que vous avez été agressée publiquement lors d'une grande émission du service public où une journaliste, Ruth Elkrief, qui est actuellement beaucoup victimisée par tous ses confrères du système médiatique, vous a accusé, vous et les féministes, de ne pas avoir défendu les femmes qui ont été violées, les femmes qui ont été assassinées lors de l'attaque du 7 octobre. C'était particulièrement violent comme dispositif parce qu'on voyait votre photo plein pot et on entendait les paroles de Ruth Elkrief extrêmement violentes, vous accusant en gros, avec votre biais idéologique de féministe de gauche, de ne défendre que les bonnes personnes violées et pas les mauvaises personnes violées. Donc moi j'aimerais vous entendre à ce sujet parce que c'est pas des choses anodines comme procéder dans l'espace public.
Mais il y a le fond et il y a la forme. Sur la forme, c'est quelque chose qui est régulier dans l'émission Quelle Époque, c'est-à-dire qu'il présente des portraits de personnages politiques et je fais partie des portraits qu'il présente régulièrement. Et les personnes du plateau s'expriment sur elles en posant une question. Il se trouve que moi, je n'ai pas la possibilité d'aucune manière de répondre à cela. Et là, Ruth Elkrief a dit que... Mais Franz-Olivier Gisberg a été encore pire, mais Ruth Elkrief a dit... Et vous prétendez féministe, grosso modo, mais en fait, vous ne défendez pas les femmes. Moi, j'ai quand même fait partie des premières signataires d'une tribune posant les questions, le mot féminicide de masse et viol, Pourquoi ? Parce que j'avais compris dans les descriptions qui étaient faites de l'attaque du 7 octobre qu'il y avait quelque chose qui est très spécifique au meurtre des femmes qui s'appelle l'overkill, c'est-à-dire que plus on ne se contente pas de tuer quelqu'un, on tue cette personne de multiples fois et il y avait la suspicion de viol post-mortem sur les victimes du 7 octobre. Et donc ça, c'est typique de ce qui s'adresse, enfin des meurtres qui s'adressent aux femmes, qui est une espèce de violence particulière et surtout de vouloir tuer les personnes plusieurs fois dans leur honneur, etc., quand bien même elles sont déjà mortes. Et donc, je pense qu'il était très important, comme il était important pour le mot terroriste, de poser ce mot-là pour, encore une fois, ouvrir la possibilité d'un débat et aller au-delà de cela. Et je trouve que c'est vraiment, en ce moment, la situation est très difficile parce que chaque mot doit être pesé, mais précisément, on a la responsabilité, quitte à moins s'exprimer, de s'exprimer de manière, à mon avis, très sensible sur les situations. Là, je pense qu'il était important de le poser.
C'est évident que les événements du 7 octobre sont un massacre et qu'il s'agit d'une action terroriste. Là-dessus, il y a pas de doute et il n'y a pas de débat. En revanche, le label organisation terroriste qui est désormais assez automatiquement accolé au Hamas est un peu réducteur parce que il ne fait pas justice à la complexité de la situation, il essentialise, il décontextualise et il dépolitise. Première chose, le Hamas a recouru à des actions de type terroriste il y a déjà longtemps. Il faut juste se rappeler que dans les années 90, dans les années 2000, ils ont contribué par les attentats suicides à saper le processus de paix, à fragiliser le Fatah, l'autorité palestinienne, et à nous amener dans l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Deuxième chose, dans le répertoire d'actions qu'utilise le Hamas, il n'y a pas que le terrorisme. En 2008, le Hamas, dans la bande de Gaza, a encadré des marches populaires non violente vers la clôture entre Gaza et Israël pour réclamer la levée du blocus et davantage d'une capacité de respirer dans la bande de Gaza. Donc on voit que le Hamas, selon les contextes, selon les moments, va recourir à tel type d'action ou tel autre type d'action. Et puis troisième chose, on a publié dans Le Monde il y a aujourd'hui même, je crois, ou hier, une tribune d'une jeune palestinienne qui s'appelle Asma El Roul, qui est une féministe palestinienne, qui est une femme qui, dans les années 2010, a défié le Hamas en se promenant dans la bande de Gaza sans voile, en refusant les diktats sociaux que voulait imposer de manière un peu comme ça, indirecte, mais quand même assez efficace, le Hamas. Et finalement, elle a été expulsée de la bande de Gaza. Enfin, elle vit en France actuellement, en exil, de facto, en exil. Et elle a publié une tribune dans Le Monde. Qu'est-ce qu'elle dit dans cette tribune ? Le titre est parle tout seul. Hein. Le titre dit, grosso modo, entre moi et le Hamas, les valeurs divergent complètement. Mais dans la situation présente, je suis obligé de les tolérer, de serrer les rangs avec eux. Quoi. Ça montre bien que le Hamas n'est pas seulement un mouvement terroriste, c'est aussi, comme Sylvain le disait, une organisation politique islamo-nationaliste qui a un ancrage, qu'on le veuille ou non, dans la population, qui a joué le jeu des élections en 2006, qui a remporté les élections, résultat qui s'est heurté à un déni de reconnaissance absolue de la part de la communauté internationale, et voilà, et qui représente une partie de l'opinion palestinienne. Donc voilà, il faut.
Qu'est-ce que ça veut dire éradiquer le Hamas ?
Pardon ?
D'où la question, qu'est-ce que ça veut dire éradiquer le Hamas ?
Oui, bien sûr, c'est évidemment un objectif qui est pas réalisable. Ou alors, derrière le Hamas, on aura droit à un mouvement encore plus radical, encore plus coercitif pour la population.
On peut imaginer ce qui se passe dans certains camps de réfugiés libanais, qui ont effectivement basculé du côté de Daesh, etc.
Alors j'aimerais qu'on aborde la question du traitement médiatique et de la scène intellectuelle française de tout ce conflit israélo-palestinien. On a un cas d'école qui s'est produit hier, me semble-t-il, je voulais absolument qu'on l'aborde ce soir, c'est l'annulation d'une conférence qui devait avoir lieu hier à Paris. de Judith Butler, donc la grande théoricienne du genre américaine, qui avait tenu des propos, alors je ne sais pas exactement de quelle date, peu importe, mais jugé très favorable au Hamas, inscrivant le Hamas dans les luttes progressistes de notre époque contemporaine. Toujours est-il que Judith Butler devait prendre la parole hier dans une conférence, me semble-t-il, ne faisant pas courir de risque majeur à l'ordre public, puisque je vais dire son titre, je crois que c'est important, elle était intitulée « Contre l'antisémitisme » déjà, « Contre l'antisémitisme, son instrumentalisation et pour la paix révolutionnaire en Palestine ». Donc le titre était absolument sans ambiguïté. Néanmoins, la mairie de Paris a jugé plus prudent d'annuler cette réunion. Et contactée aujourd'hui par Libération, je voulais lire cette phrase formidable de la novlangue de la mairie de Paris. La mairie de Paris dit que la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, contre les inégalités hommes-femmes et contre l'homophobie font partie des valeurs cardinales de la ville de Paris. Or, lors de ce débat, qui était donc programmé le 6 décembre, le risque était majeur que des propos qui contreviennent à ces principes non négociables soient tenus. Voilà. Donc on en est là, c'est-à-dire la censure par anticipation de propos qui éventuellement pourraient heurter les valeurs affichées par la mairie de Paris en dépit du titre de la conférence. Qu'est-ce que cette chose orwellienne vous inspire ?
Mais, en fait, c'est assez... enfin, c'est pas une surprise. Il y a
c'est quand même une surprise. Qu'on ne puisse pas tenir un débat comme ça aujourd'hui à Paris.
Je me rappelle d'un débat entre Stéphane Hessel et Leïla Chaïd qui avait été programmé à l'école normale supérieure il y a une dizaine ou vingtaine d'années, qui avait été interdit. Stéphane Hessel et Leïla Chaïd, pas des personnalités extrêmement subversives. Donc il y a régulièrement ces crispations-là qui participe d'une volonté de d'effacement des voix pro-palestiniennes, comme l'action israélienne vise assez régulièrement à effacer les Palestiniens tout court. Et on a eu la décision au début de la guerre, de la crise, d'interdire les manifestations à Paris. Donc tout ça est... Oui, alors les manifestations
au début,
alors après
tout
voilà,
était interdite au début.
Elles le gouvernement est revenu dessus.
Si elles ont toutes été interdites au début, Gérald.
Manifestation de soutien à Israël n'a pas été interdite.
Non, je vous assure, ça a été au bout de plusieurs semaines, elles ont toutes été interdites au nom justement
oui, les pro-palestiniennes.
De l'interdiction
le ministère de l'Intérieur arguant du fait que c'était forcément des manifestations de soutien au Hamas, ce qui était faux. Mm-hmm. Ce qui était factuellement faux. Sandrine, sur ce climat de répression intellectuelle et sur cette annulation d'une conférence de Judith Butler, qui est quand même pas, qui présente pas un danger terroriste objectif.
Mais l'interdiction des manifestations palestiniennes, en défense du peuple palestinien, ont été une erreur politique. Et je pense qu'il faut le poser comme ça. C'est-à-dire, c'était une atteinte aux libertés publiques, mais c'était aussi une erreur politique. C'est-à-dire qu'il est évident que dans une situation comme celle-ci, il y a besoin que les gens s'expriment et que finalement, si nous nous sentons menacés ou attaqués par une manifestation demandant que les Palestiniens soient reconnus, qu'il y ait une solution à deux États, c'est qu'on n'est quand même pas bien solide sur nos bases, quoi.
Et ça dit beaucoup de choses sur la fragilité d'un pouvoir.
Oui.
Beaucoup.
Donc ça, je pense que c'était une erreur. Et vraiment, d'ailleurs, je pense que nous n'avons pas suffisamment dit. Donc pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ce n'est pas la première fois que ce type d'erreur est commise. Moi, je me souviens, par exemple, que sous Valls, on a eu des interdictions de manifs pour le climat. Alors ça n'a rien à voir en termes de contexte. Mais enfin, le danger d'une manif pour le climat est quand même très relatif. Et c'était aussi au titre des menaces terroristes. Donc en fait, là, on est... On a perdu le droit chemin dans l'équilibre entre nos libertés publiques et la lutte contre le terrorisme. Et là, en l'occurrence, sur les manifestations à Gaza, en soutien au peuple de Gaza, il y avait absolument besoin que les gens s'expriment, il y avait absolument besoin de défiler. Et Par ailleurs, ça aurait aidé le pouvoir. C'est ça qui est aussi très...
Aider le pouvoir, vous voulez dire.
Mais oui, ça aurait aidé Macron à avoir une position qui soit plus équilibrée sur la scène internationale. Et en fait, ça, c'est... il s'est privé de cette chose-là. Du coup, la seule manifestation d'ampleur vraiment qu'il y a eu en France aujourd'hui, c'est quand même la manifestation contre l'antisémitisme, avec le soupçon qu'il y avait de savoir si c'était très clair qu'il n'y avait pas de soutien à Israël en fonction des attendus de la manifestation. Bon, moi, j'ai estimé qu'il n'y avait pas c'était vraiment contre l'antisémitisme, mais c'est la manifestation de masse. Et en fait, les autres à côté n'apparaissent pas de même ampleur. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un sujet sur comment fait-on pour aussi faire en sorte que le dirigeant d'un pays puisse s'appuyer sur une opinion publique et puisse aussi s'appuyer sur sa propre société pour faire avancer les choses au niveau international. Ce qu'avait fait de Villepin au moment de l'invasion de l'Irak, où il s'était beaucoup appuyé sur la politique intérieure pour porter la voix de la France à l'extérieur.
Il y a 20 ans.
Oui, il y a deux aspects, parce qu'il y a d'un côté l'État et de l'autre la mairie de Paris. En fait, ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Du côté de l'État, en fait, ces interdictions et la posture même martiale au départ, bah, en vérité, s'inscrit dans une tendance lourde contre précisément un certain nombre de libertés publiques, où finalement un discours sécuritaire tend à dominer le discours officiel. Et c'est assez presque logique.
C'est-à-dire que les manifestations interdites sont plus nombreuses maintenant que les manifestations autorisées.
Oui, pour des motifs parfois étranges, comme l'histoire de casserole. Enfin, voilà, une jurisprudence politique maintenant.
Les dispositifs sonores, vous voulez dire.
Exactement. voilà, difficile à suivre du point de vue juridique, du point de vue également d'une philosophie libérale qui est censée être la nôtre en tant que démocratie. Donc il y a quand même ce contexte général auquel n'a pas échappé la séquence palestinienne ou pro-palestinienne, entre guillemets. Et en même temps, il y a cette dimension purement interne est très importante pour aussi comprendre, saisir les atermoiements de la politique étrangère ou la politique ou la position française sur le conflit. Parce que si, on a ouvert un peu notre débat sur ces tonalités, ces positions contradictoires sur un laps de temps court, je pense que la donnée purement interne pèse, est un facteur, une variable explicative, pas totale, mais en partie de cette difficulté à l'Élysée à tenir un discours cohérent, parce qu'il y a toujours un œil rivé sur l'opinion publique franco-française, certaines pesanteurs sur lesquelles on reviendra peut-être. Mais voilà, il n'y a pas d'autres... Moi, je n'ai pas à l'esprit d'autres exemples où une question de politique étrangère se voit presque indexée en partie, en tous les cas, sur des facteurs internes. Et puis, du côté de la mairie de Paris, ça aussi, la séquence est très importante, très intéressante aussi. Pourquoi ? Parce que, premièrement, elle permet d'illustrer parfaitement la manière dont ceux, y compris à gauche, ceux qui mettent en avant le label gauche républicaine et laïque, et qui mettent aussi en avant souvent le spectre de la cancel culture, en réalité sont souvent les premiers à interdire des manifestations au nom de menaces à l'ordre public largement fictives. Et ça, c'est très important, parce que ça aussi, ça s'inscrit dans un contexte global dont pâtit notre démocratie, je veux dire par là. Tout cela pour dire que finalement, cette séquence, une guerre qui est assez lointaine, mais dit énormément de choses sur l'état de notre démocratie, sur l'état de régression en matière de liberté d'expression. Vous aurez tous constaté le retrait, la position de retrait d'un certain nombre d'intellectuels, d'universitaires, de chercheurs. Il y a eu des documents, des papiers
sur... Mais avec des sanctions aussi.
Voilà, je veux dire, on a tellement... Enfin, on commence carrément à intégrer ces pesanteurs.
Mais l'islamo-gauchisme.
Mais bien sûr, c'est ça que je veux dire. Voilà, je veux dire par là que c'est révélateur de quelque chose de plus structurel. Et c'est spectaculaire, mais on ne doit pas... Enfin, il faut en prendre acte sans être passif, parce que c'est grave en vérité.
Juste une chose sur cette idée d'effacement. Il y a eu au début de la guerre cette initiative de la mairie de Paris, très belle, parfaitement justifiée, d'illuminer la Tour Eiffel avec le drapeau israélien. Rien à redire. C'était un geste de solidarité et d'empathie avec la population israélienne. Ce qui est fascinant, c'est que personne à la mairie de Paris n'a eu depuis l'idée d'illuminer la Tour Eiffel avec le drapeau palestinien. Il y a 15 000 morts. 70% de femmes et d'enfants, d'après les chiffres que plus personne ne conteste. Hein. La réalité, c'est qu'il y en a probablement plus, parce qu'il y en a des milliers qui sont sous les décombres et qui n'ont pas été extraits encore des gravats. Donc ça, ce sont des symboles qui sont vus de l'autre côté de la Méditerranée, qui sont et qui crée un ressentiment terrible qui alimente cette culture du ressentiment qui est extrêmement prégnante dans le monde arabe. Ah, oui. Et c'est quelque chose qui va faire un tort terrible à la France, à la position française, à la diplomatie française dans les années qui viennent.
En plus, c'est non seulement c'est Paris, donc notre capitale, qui a une aura vraiment particulière, je veux dire, qui dépasse la puissance réelle de la France sur la scène actuelle internationale, mais en plus, c'est la gauche, du point de vue... Enfin, Paris est officiellement tenu par la gauche qui devrait être en cohérence avec ses valeurs de solidarité internationale, d'internationalisme, de principe d'autodétermination. Là, il y a un décalage inexplicable, je veux dire, par là, par rapport à cette tradition-là. Et comment l'expliquer? Je veux dire, c'est difficile, ça reste difficile, non, et troublant.
Ça se cumule à un ressenti de discrimination, enfin des discriminations réelles d'une partie de la population qui...
Mais comment ça, vous l'expliquez du point de vue de la prise de décision et de ce type de décalage et de poids de mesure comme
j'explique que...
on va afficher le drapeau israélien par solidarité à la population israélienne à juste titre. Et alors, de l'autre, l'idée même d'afficher les drapeaux palestiniens...
On n'affiche pas le drapeau palestinien et on interdit les conférences...
Je ne suis pas dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas dans celle d'Anne Hidalgo. Alors vraiment là, vous voyez, c'est au-delà de mes compétences, je suis dans la mienne, c'est déjà pas si mal. Mais je n'irai pas au-delà. Non, mais je pense qu'on est dans... je crois qu'on est tétanisé en France par l'idée d'une importation du conflit israélo-palestinien en France.
Mais il est importé dès lors qu'on affiche le drapeau israélien.
On est tétanisé par ça. Donc, en fait, on a l'impression que si on met à un moment donné un soutien au peuple palestinien, on va rentrer dans le conflit israélo-palestinien. Moi, je pense que c'est aussi basique que ça.
Lorsqu'on affiche le drapeau israélien, il n'y a pas d'importation.
Moi, ce que j'avais compris de la position, mais ne dites pas que c'est moi qui ai cette position. Hein. Ce que j'ai compris de la position, c'est qu'en fait, il y a eu ce drapeau israélien sur la Tour Eiffel parce que Paris avait été elle-même victime d'attentats et qu'il y avait eu un soutien d'Israël à ce moment-là et que c'était la contrepartie.
Mais personne conteste ici ce geste-là. Pourquoi il n'y a pas de pendant? C'est ça qui trouble.
Après, le truc, c'est que là, la question, c'est un peu quelle est la place du débat intellectuel dans la situation et est-ce qu'il y a vraiment des intellectuels autorisés et pas autorisés, en fait? Et quand bien même on n'est pas d'accord avec les positions de Judith Butler, quand bien même on estime qu'elles puissent même par certains aspects être dangereuses, je l'ai aussi entendu d'Angela Davis, par exemple, bon, quand bien même on pense ça, que interdire le débat, ça renvoie quand même aux heures les plus noires. Donc en fait, c'est ça le sujet. Et je crois qu'on est dans une situation où on se sent tellement faible qu'on a peur d'opinions qui...
Non, mais d'autant que pour en revenir au traitement médiatique du conflit, c'est vrai qu'ils ont déjà absolument 80% des plateaux mainstream et que même ce qui est organisé au cirque électrique entre organisations, associations de gauche est interdit. Donc il y a vraiment un sentiment.
Je pense qu'il y a un problème qui est typiquement français. Qui est que la France est le seul pays qui a une mémoire. Souffrante, on peut dire, ou difficile, avec les Juifs d'un côté et avec les Arabes de l'autre. Parce que c'est en France qu'il y a eu l'occupation nazie et un régime qui a collaboré avec les nazis dans l'expédition des Juifs vers leur destruction physique. Et la France aussi, une autre France, la France républicaine, a fait le colonialisme et a fait l'empire colonial.
Le bilan final,
il est quoi? Il a été très long de pouvoir faire le bilan de Vichy et de la déportation des Juifs de France. Mais il a été fait finalement. Chirac y a réellement contribué au Veldiv et donc il a modifié la donne. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inscrit. C'est quelque chose qui est acté. Ce travail-là n'est pas fait sur la question coloniale. D'abord parce que c'est beaucoup plus difficile, je répète, Ce qui a été fait par Vichy, c'est un gouvernement illégitime. C'était un régime illégitime. Et c'est d'ailleurs la grande alliance entre De Gaulle et les communistes consistait à dire « c'est pas nous, c'est Vichy qui a fait ça ». C'est-à-dire un gouvernement totalement illégitime. Alors que dans le cas du colonialisme, il n'y a pas de méchants. C'est la République, c'est la démocratie qui ont fait le colonialisme. C'est beaucoup plus difficile. Or, pourtant, le crime colonial est un crime gigantesque. De ce point de vue-là, tant que ça n'est pas résolu, ce nœud-là sera très difficile à défaire. Très difficile. Et le gros travail à faire pour la France, c'est le colonialisme. Les Anglais l'ont fait, pas complètement, mais ils l'ont fait plus que les Français.
J'ai écrit une tribune qui va sortir demain dans le Monde, là-dessus. C'est-à-dire que, pour moi, il y a à la fois une mémoire traumatique de la Shoah qui n'a pas été complètement réglée. Alors, les paroles de Chirac ont aidé.
J'ai pas dit complètement, mais quand même, il a ouvert les vannes.
Il a pris une première étape, mais je trouve que ce qui nous manque dans pour régler l'histoire, à supposer que ça puisse être réglé d'ailleurs, mais au moins pour regarder en face l'histoire de la Shoah, c'est de regarder l'attitude de la France pendant la montée du nazisme, où ça, nous n'avons pas fait du tout le devoir d'inventaire de ce moment-là. Et face à ça, il y a la colonisation, qui reste un traumatisme très présent, y compris à l'intérieur des familles, parce que autant la Shoah est un traumatisme présent à l'intérieur des familles juives de France et d'Europe, autant la colonisation est aussi un traumatisme à l'intérieur des familles issues des pays colonisés. Et donc, tant qu'on n'a pas, et sur la colonisation, nous n'avons fait aucune espèce de devoir de mémoire. Alors là, pour le coup, il n'y a pas eu de procès de la torture, il n'y a pas eu de procès des massacres, il n'y a pas eu d'inventaire un peu de tout ce qui s'est fait dans les pays colonisés.
Donc en fait, un gros travail d'historien qui est fait.
D'historien, mais pas politique. Il n'y a pas eu de parole politique.
Il y a eu une reconnaissance très tardive de l'existence d'une guerre d'Algérie au lieu d'événements.
Oui, très bien. Et il y a Emmanuel Macron qui avait dit...
Ça progresse très lentement.
Le candidat Macron avait parlé de crimes contre l'humanité en parlant de la colonisation. Et il n'était pas revenu. Et il a eu ces paroles extrêmement maladroites qui consistaient à dire que les relations avec l'Algérie étaient des relations d'amour teintées de tragique, je crois. Enfin, la phrase... Bon. Et donc, en fait, nous n'avons pas regardé cette histoire-là en face, de sorte qu'il y a aussi, dans le soutien au peuple palestinien en France, une histoire de colonisation non réglée de notre part à nous. De notre part à nous. Et ça, et c'est l'objet... Bon, du coup, je spoil les tribunes, mais enfin, c'est l'objet de...
Vous la lirez quand même.
C'est l'objet, à mon avis...
Vous la teasez.
De ce que l'on doit faire aujourd'hui, c'est justement de ne pas régler l'importation possible du conflit israélo-palestinien uniquement par les questions de sécurité, mais de le travailler par la mémoire et par l'attitude de l'État français dans les deux épisodes traumatiques collectifs qui se confrontent aujourd'hui au Proche-Orient.
Pour avancer dans le débat, pour parler des perspectives de sortie de conflit, bien sûr, parce que c'est... Je pense autour de cette table.
Je pense que je vais vous quitter.
ce qui nous réunit, entre autres. Bon, je pense qu'il faut regarder du côté des États-Unis parce que, bon, clairement, c'est là que ça va se jouer. Hein. Je pense que nous n'avons pas notre mot à dire dans cette histoire. Et alors, je m'adresse aux spécialistes autour de cette table. Est-ce que quelque chose est en train quand même de bouger aux États-Unis? On sait que la vice-présidente de Biden a eu des paroles assez fortes quand même, hein, pour un pouvoir américain, hein, je mets tous les guillemets qui s'imposent, qu'elle a dit qu'il fallait protéger davantage les civils à Gaza, que trop d'innocents avaient été tués, que les images en provenance de la bande à Gaza, je cite, étaient déchirantes, etc. etc. Venant des États-Unis, c'est une parole rare, hein, puisqu'ils sont un soutien absolument indéfectible d'Israël dans les pires aventures. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a un espoir quelconque qu'aux États-Unis, sous la pression d'ailleurs de l'opinion publique démocrate, hein, puisque les jeunes notamment sont très mobilisés en faveur de Gaza, est-ce que quelque chose peut bouger? Est-ce que Biden ou ceux qui sont derrière Biden ou celui qui succédera à Biden peuvent à un moment dire aux Israéliens on va arrêter ça?
Bon, Je vais pas me lancer dans la prospective, c'est évidemment compliqué, mais ce qui est important de voir, c'est que il y a eu plusieurs phases. Au début de la guerre, les États-Unis se sont très vite investis dans la politique israélienne. On a vu ces scènes où Blinken venait assister à la réunion du cabinet de guerre. Les Américains étaient présents, enveloppant presque trop aux yeux de certains analystes qui disaient qu'il y avait une espèce de mise sous tutelle absolument inédite du gouvernement israélien. Ça a été la première analyse. Et on a eu l'impression, l'espoir pour certains, que les Américains pourraient, canaliser la colère et éviter qu'elle ne se transforme en vengeance aveugle. Et puis alors, il y a eu cet épisode de la trêve où on s'est dit que peut-être qu'il va y avoir une désescalade. Et puis, badaboum, la trêve s'est effondrée. Et là, ce à quoi on assiste, c'est un renversement, comme dit Sylvain, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est les Israéliens qui forcent un peu la main des Américains, parce que il y a effectivement ces demandes de la part de l'administration américaine, du Département d'État, etc., de procéder avec plus de retenue, ces déclarations rituelles. Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ces déclarations n'ont aucun effet, aucun. Absolument aucun. Et donc, la question qu'on se pose désormais, c'est est-ce qu'on va assister un peu à ce qu'on a vu en 82, lorsque les Israéliens sont rentrés au Liban. Il faut se rappeler qu'en 82, il y avait ces tirs palestiniens sur le nord d'Israël, et puis il y a eu comme ça une invasion israélienne du sud Liban. À l'époque, la déclaration officielle, c'était on va aller jusqu'au Litani. Le fleuve Litani, c'est à 20-30 kilomètres de la frontière. Il s'agissait officiellement pour les Israéliens de sécuriser uniquement une bande de sécurité, de prendre le contrôle d'une bande de sécurité pour empêcher les fedayins palestiniens de s'approcher trop près de la frontière et tirer leurs roquettes sur le nord d'Israël. Et puis, il y a eu cette espèce de jeu de dupes très, très compliqué entre Israéliens et Américains, où les Américains font semblant de ne pas savoir, mais essaient dans les coulisses, malgré tout, d'influer sur l'allié israélien. Et puis, finalement, ça n'a mené à rien, et les Israéliens sont allés bien au-delà du Litani, sont rentrés dans Beyrouth, ont envahi Beyrouth, et puis ont donné un espèce de feu vert tacite aux milices phalangistes pour aller régler leur compte aux derniers Palestiniens dans le camp de Sabra et Shatila. Donc la question, à la lumière de ce qui s'est passé en 82, c'est est-ce que le but, c'est régler son compte au Hamas, l'éradiquer, comme dit le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, ou est-ce qu'il y a un autre objectif qui est, insensiblement, à force de mettre la pression sur les Palestiniens, de leur demander d'évacuer telle zone, puis telle zone, puis telle zone, en remontant du nord vers le sud de la bande de Gaza, est-ce que l'objectif, c'est pas, à un moment, de faire en sorte de créer une situation où il y aura tellement de centaines de milliers, voire de millions de Palestiniens massés dans un tout petit mouchoir de poche réduit à la ville de Rafah, grosso modo, la ville de Rafah qui est le cul-de-sac de la bande de Gaza, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où à un moment la pression sur l'Égypte sera telle que le président Sisi, en dépit de ses refus pour l'instant, sera obligé d'ouvrir la frontière et de laisser la population palestinienne s'installer dans le Sinaï. Pour certains responsables israéliens, il ne fait pas de mystère que c'est leur intention profonde.
Alors, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas un hiatus, mais il y a quand même des difficultés entre Biden et Netanyahou, entre le gouvernement israélien et les Américains.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Netanyahou.
Oui.
Et donc,
c'est Netanyahou, bien ce que je dis.
Oui, c'est une bonne nouvelle, mais Netanyahou est en train de montrer ce qu'il est capable de faire s'il ne veut pas qu'on lui impose quelque chose qui n'est pas souhaitable pour... Et ce qu'a dit Biden, après, que ce soit réaliste, pas réaliste, c'est un autre débat. Mais ce que dit Biden, on arrête la guerre, le Hamas, c'est fini, on va ramener l'autorité palestinienne qui va s'occuper de Gaza. Très bien. Et puis, ajoute-t-il, on va pouvoir engager une nouvelle négociation pour deux États.
Ouais.
Netanyahou, c'est une très mauvaise nouvelle. Et pour les Israéliens en général.
Ça, c'est la position officielle des États-Unis. Donc, autorité palestinienne régénérée. Oui.
Voilà. Il a dit revisiter.
Deux États. Voilà. Oui. Mais concrètement, comment on arrive à ce point?
Non, mais avant de parler
comment
concrètement...
Comment on arrive du point A au point B?
D'abord, pour Netanyahou, on n'y arrive pas.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui, pour éviter que Biden puisse effectivement avancer des pions dans ce sens-là? Il faut bien comprendre que Biden, ce qui l'intéresse, c'est... Je ne vais pas rentrer dans un truc géopolitique, mais ce qui l'intéresse, c'est de reconstituer ce qu'il avait eu du mal à mettre sur pied, c'est-à-dire une alliance Arabie Saoudite-Israël sous l'égide américaine. C'est ça qu'il avait mis sur pied, c'est ça qui s'est effondré avec le 7 octobre, totalement. Il n'y a pas renoncé, je pense qu'il n'y a pas renoncé. Mais pour que ce soit réaliste, il faut trouver une solution à la question palestinienne. Ce, quelle qu'elle soit... Netanyahou n'en veut pas, et globalement, les Israéliens n'en veulent pas. C'est-à-dire, s'il n'y a plus Netanyahou, il y aura un autre Premier ministre qui n'en voudra pas non plus.
On va en dire un mot.
Donc, de ce point de vue-là, ça crée quand même une tension.
Ouais.
Ce qu'est en train de faire, je ne sais pas ce que Netanyahou va faire dans 10 jours, mais ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est la réponse à Biden et à la Maison-Blanche, c'est de dire non, nous n'irons pas dans le sens que vous voulez.
Sandrine, et puis après...
Moi, je pense que Biden est en grande difficulté parce qu'il y a certes des divisions au sein du camp démocrate, mais il y a le trumpisme et il y a les soutiens de Trump qui, à côté, mettent une pression importante en perspective de l'élection américaine qui a lieu en novembre prochain, de sorte que, en fait, là, ça va être une année électorale et avec une montée du trumpisme. Enfin, les chiffres de soutien à Trump sont quand même assez étonnants hein, aux États-Unis. Donc, et on sait que c'est Trump qui a sorti l'ambassade de Jérusalem-Est. Et donc, pour moi, là, Biden est dans une équation qui me semble très difficile vis-à-vis de la position des États-Unis vis-à-vis d'Israël. C'est d'ailleurs, je pense, une partie de l'explication qui fait qu'il ne dit pas tout et que du coup on a
Je pense que vous avez partiellement raison. Il ne faut pas exagérer, mais il y a dans le Parti démocrate aujourd'hui, chez les jeunes, dans le Parti démocrate,
il y a
beaucoup de gens pour dire je ne voterai pas Biden.
Voilà. Alors après, il y a
aujourd'hui.
Ça. C'est-à-dire qu'au sein du camp démocrate.
Mais il ne faut pas exagérer cette tendance, mais elle existe.
Oui, mais la question, c'est est-ce que, en fait, il faut penser pour le coup politique, c'est-à-dire politique intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce que Biden va avoir est-ce qu'il y aura une primaire démocrate, est-ce qu'il y aura pas de primaire démocrate, est-ce que Biden a quelque chose à gagner dans le camp démocrate ou est-ce qu'il n'a pas besoin de cette validation du camp démocrate, et en fait tout cela change un peu sa position vis-à-vis d'Israël. Voilà, aujourd'hui l'Amérique est très divisée sur cette question. Il y a certes une jeunesse qui se lève un peu comme on a pu le voir au début de la guerre du Vietnam. Par exemple, durant la guerre du Vietnam, est-ce que ça va se développer ou est-ce qu'au contraire le camp trumpiste va être suffisamment fort pour que la position américaine ne change pas? Ça, aujourd'hui, bien malin qui peut le dire, je pense.
Il y a deux aspects de mon point de vue. Je pense qu'on minore quand même ce qui se passe du point de vue proprement américain, je veux dire. La mobilisation de cette jeunesse qu'on a déjà vu se mobiliser sur d'autres sujets.
Ça, c'est l'élément de l'équation qui n'était pas prévu. Ouais.
Exactement. Ça, c'est vraiment nouveau. Ouais. Et c'est surtout une dynamique. Ce n'est pas un fait qui va mourir avec le conflit. Je veux dire par là que la génération qui se mobilise
ça
actuellement...
Ça retrouve les droits des Afro-Américains.
Enfin, plus largement, ça renvoie à ce que je disais sur le débat qui a eu lieu, ou plutôt sur... le débat sur l'intersectionnalité, la cancel culture, etc., qui peut peser aujourd'hui sur le débat sur le conflit israélo-palestinien en France. Mais en réalité, on retrouve ce schéma aussi, cette pesanteur, cette variable dans la manière dont le conflit est désormais perçu et traité par cette nouvelle génération. Et ce que je trouve important, c'est pas seulement sa mobilisation, mais surtout qu'elle représente un avenir politique. Elle s'est mobilisée aujourd'hui, mais elle va continuer à garder un œil sur ce conflit si symboliquement chargé et significatif de ce qui les intéresse, à savoir les questions de justice. En réalité. Donc vous avez ces données nouvelles et qui va être de plus en plus importante dans la vie politique américaine. Et puis vous avez un autre élément qui concerne les relations israélo-américaines. Je pense qu'on exagère trop souvent la capacité américaine à peser sur Israël. Il y a beaucoup d'épisodes où précisément le rapport de force, si j'ose dire, est inversé. Et lorsque les Israéliens veulent en plus montrer cette capacité d'autonomie stratégique et politique, ils le font. Rappelez-vous la manière dont Benjamin Netanyahou, déjà Premier ministre, a humilié le président Obama lorsqu'il allait, grosso modo, le fustiger au Congrès ou à la Chambre des représentants.
Au Congrès,
carrément. Je veux dire, c'est une séquence hallucinante.
Alors, sur quel thème ?
Sur quel thème ?
Sur la bomba en Iran.
Sur les rapports à l'Iran et plus largement sur les velléités d'Obama de vouloir s'engager dans le dossier israélo-palestinien et derrière.
Mais c'était l'Iran dans ce discours.
Oui, bien sûr, l'obsession vis-à-vis de l'Iran.
Petite question, dans la mesure où quand même les États-Unis sont quasiment le seul allié mondial de poids d'Israël, est-ce qu'ils peuvent se passer d'une telle alliance ?
Dans l'état d'esprit, oui, parce qu'il y a quand même cette idée assez obsessionnelle qui consiste à se penser presque seul au monde.
Il y a quand même cette idée sur laquelle
même leur sécurité dépend d'eux, même si matériellement, vous avez raison qu'il y a une dépendance. Mais d'un point de vue technologique, il y a une dynamique favorable à Israël qui s'est autonomisée.
Tout ce qu'on veut. À chaque fois qu'un président américain dit « the game is over », c'est fini. À chaque fois, les Israéliens ont reculé. Elles sont rares.
Il y a George
Bush, 3-4 fois. Non, c'est en 49 quand ils rentrent en Égypte, dans le Sinaï. C'est Truman. Ensuite, c'est 56 quand Eisenhower dit « Gaza, dehors ». 3 mois après, c'est fini.
Mais
c'est une autre histoire peut-être. Si ça monte aux États-Unis, la revendication dans le camp démocrate, c'est de dire à Biden « Il faut arrêter l'aide annuelle en armement à Israël pour 3,8 milliards tous les ans en armement. » En plus, il leur ajoute 14 milliards maintenant pour renouveler leur propre armement. Si ça s'arrête, à mon avis, ça peut faire réfléchir. Oui, mais pour prendre une décision de cet ordre, il faut qu'il y ait une conscience à la Maison-Blanche que moins que ça, ça ne passera pas.
Vous avez raison, mais ça consiste à réfléchir à travers un schéma binaire avec une entité israélienne en tant que telle et une entité américaine en tant que telle. Sauf qu'aux États-Unis, les rapports d'influence sont beaucoup plus complexes. Je veux dire, la Maison-Blanche elle-même est l'objet d'influence pour soutenir ou pas Israël de manière inconditionnelle. Je veux dire par là que les républicains, même s'ils ne sont pas à la Maison-Blanche, pèsent sur la politique étrangère.
Évidemment.
Vous voyez ? Et donc, Biden ne sera pas sensible seulement...
Moi, j'ai toujours en mémoire une anecdote, une histoire qui vraiment dit tout. C'est après la guerre de 73, il y a les élections, et c'est la première fois que Ariel Sharon, qui est à l'époque un général, est élu à la Knesset, au Parlement. Dayan est ministre des Affaires étrangères. Il y a un débat, et Sharon accuse Dayan en disant « Nous avions traversé le canal de Suez. Nous avions encerclé la deuxième armée égyptienne. On leur serrait le kiki. On aurait pu les mettre à terre. Et on aurait eu la paix pour 50 ans. » Dayan dit « Mais écoutez, les Américains nous ont menacé d'arrêter le pont aérien qui nous livrait toutes les armes. Et nous, on n'avait qu'un... on ne va pas rigoler, non, quand même. On ne va pas essayer de dire non. » Alors, Sharon répond « Mais vous savez bien qu'il ne l'aurait jamais fait. » Et Dayan a le dernier mot et il dit « Écoutez, moi, personnellement, quand les Américains me disent un truc pareil, je ne joue pas au poker. »
Vous avez raison, mais c'est vraiment une autre époque.
Je fais ce qu'ils me disent. Parce que je ne vais pas essayer de savoir.
Il y a une autonomisation stratégique
d'Israël. Vous pensez que les Israéliens sont beaucoup plus affranchis vis-à-vis
des États-Unis ? Oui, depuis cette époque, ils sont beaucoup plus affranchis.
Bien sûr. Alors, dès la première guerre d'indépendance, entre guillemets, d'Israël, il y avait une dépendance en armement, etc. Aujourd'hui, cette dépendance est beaucoup plus relative.
Il y a une semaine, lors d'un direct, nous étions pourtant en pleine trêve encore, hein, ça paraît déjà loin, mais il n'y avait déjà pas beaucoup d'espoir. Néanmoins, nous avions la chance d'avoir ce soir-là Roni Broman parmi nous. Et il semblait nourrir un certain espoir en Marwan Marghouti, qui est en prison depuis 22 ans, que lui, en tout cas, présentait comme le Mandela palestinien. Et pour lui, mais il ne voyait pas comment tracer une ligne entre le point A et le point B, pour lui, des élections en Palestine pour restaurer une autorité digne de ce nom avec la participation de quelqu'un, d'une figure comme Marwan Barghouti, ça lui paraissait la sortie honorable que même l'État hébreu devrait lui-même, pour sa propre sécurité, adopter.
Ou jamais.
Alors,
Moi, je l'ai interviewé deux fois.
Comment est le Mandela palestinien? On a envie de savoir.
Il avait 20 ans de moins. Je ne sais pas, moi, comment il est au bout de 22 ans de prison. J'en sais rien dans quel état il est. Mais il est forcément une personne quand même relativement courageuse, non ? Ça fait 22 ans qu'il est en tôle. Mais la vérité, c'est qu'il garde Barghouti en tôle pour des situations de grande difficulté. Si ça se passe pas bien, alors, voilà, comme ils ont tué tout l'entourage d'Arafat, et ils ne l'ont jamais tué lui, de la même façon. Et donc, ils le gardent au chaud, au cas où. Mais ce n'est pas du tout la situation actuelle. Actuellement, ils avancent. Et donc, après, est-ce que Barghouti a l'envergure d'un Mandela? Comment? D'abord, je pense que le Fatah, ce n'est pas l'ANC. Et que l'ANC était politiquement, et sur beaucoup d'autres plans, beaucoup plus évolué, développé, politiquement fort, etc. Et je pense que la personnalité de Mandela, il y en a un par siècle. Non, ce n'est pas Mandela. Après, je lui souhaite le meilleur, c'est-à-dire oui, de sortir.
Bien sûr. Votre avis, Benjamin?
À chaque situation de crise, les analystes divers et variés, dont je fais partie, vont effectivement agiter la carte Barghouti. Ou alors il y a la carte Darlan. Enfin, bon. La vérité, c'est que on n'en sait rien et que je ne suis pas persuadé que les Israéliens gardent Barghouti. En fait, Marwan Barghouti est en prison. Il a été condamné à la prison à perpétuité pour 4 ou 5...
5 fois la perpétuité.
Chef d'assassinat, organisation d'attentats, etc. Il est en prison comme certains hauts responsables du Fatah sont en prison depuis l'époque de Shaw. Donc, que les Israéliens aient une idée derrière la tête et qu'ils se disent éventuellement on va l'utiliser à un moment ou à un autre, ça, je ne suis pas persuadé. Après, effectivement, le Fatah n'est pas l'ANC, mais c'est aussi que l'ANC évoluait dans un contexte, dans les années qui ont précédé la libération de Nelson Mandela, qui n'est pas du tout le contexte dans lequel évoluent les groupes politiques palestiniens. Il y avait une forme de sympathie et de soutien diplomatique qui a grandi, qui a pris de l'élan, etc. Et c'est aussi la réponse de la communauté internationale qui détermine les armes qu'utilisent les groupes, les mouvements de libération. L'ANC, à un moment, a pratiqué des attentats et puis a été tenté par la voie de la lutte armée. Et puis, bon, finalement, ils ont fait assez vite machine arrière parce que aussi il y avait comme ça des signaux venant de la communauté internationale qui leur faisaient comprendre que la voie politique serait plus payante. Donc, moi, je suis assez peu optimiste. Je ne pense pas du tout, je ne vois pas du tout un gouvernement comme le gouvernement actuel israélien sortir de prison un homme comme Barghouti qui, pour une grande partie de la population israélienne, est un terroriste.
C'est essentiel ce qui vient d'être dit parce que ça permet de rappeler quand même que si le Hamas aussi a basculé dans ce terrorisme de masse, c'est qu'il a premièrement expérimenté d'autres voies, ça a été rappelé. Mais plus largement, les Palestiniens, à travers l'OLP, l'autorité palestinienne, se sont investis dans la voie de la non-violence et de la diplomatie. Ça, c'est avec un bilan calamiteux, puisqu'ils n'ont eu en retour aucun soutien significatif. Et ça, c'est ce qui pèse énormément dans la conscience palestinienne. C'est qu'en gros, la violence est une impasse. Mais l'alternative n'existe pas, puisqu'elle a abouti également à une impasse. Donc, elle est là aussi. Il y a là aussi l'enjeu politique, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de perspective, parce qu'en fait, les voies rationnelles ont été déjà expérimentées. On ne part pas de zéro. Il y a les accords d'Oslo, naturellement, mais même après, avec le président Abbas. Abbas, il est arrivé, il a diabolisé le Hamas en disant la violence, ça n'aboutit à rien, le terrorisme encore moins. Donc, je m'engage et je suis reconnu comme un interlocuteur digne de ce nom au regard de la communauté internationale. Je m'engage dans des négociations diplomatiques. Il a reçu une fin de non-recevoir à la fois du côté des gouvernements israéliens successifs et des puissances occidentales. Qu'est-ce qu'on fait de ça ?
Il y a aussi une dimension qu'on néglige, c'est la politique intérieure israélienne où Netanyahou s'est appuyé sur les mouvements les plus extrémistes à l'intérieur d'Israël qui aujourd'hui ont un poids dans la structure d'État très importante. Donc en fait, pour s'appuyer sur des branches plus modérées des organisations politiques palestiniennes, il faudrait qu'il y ait quand même un minimum de soutien à l'intérieur de la population israélienne, parce que même si Biden dit quelque chose, il faut quand même qu'à l'intérieur d'Israël, ça bouge. Et là, je suis pessimiste parce que je ne vois pas d'issue, c'est que les ultra-orthodoxes, les extrémistes parmi les plus extrémistes ont été très bien servis par la politique de Netanyahou. Ils ont eu des alliances politiques et ils ont aussi intégré les sphères de l'État, de sorte qu'en fait, c'est difficile aujourd'hui de renverser une opinion publique israélienne et de leur faire accepter une solution qui soit politique. Avec un appui sur des personnalités politiques en dehors du Hamas. Moi, je crois que là, d'ailleurs, on en parle peu, mais en Cisjordanie, la colonisation a repris. Il y a eu plusieurs morts en Cisjordanie.
Elle s'est bien arrêtée.
Non, mais elle s'est accélérée. Il y a eu plus de 200 morts. Et en fait, on laisse complètement faire de ce côté-là aussi. Donc,
voilà. C'est la question que j'allais vous poser pour terminer. Qu'est-ce que les Israéliens qui voient ces bombardements pensent aujourd'hui ? Est-ce que l'opinion... on sait qu'il y avait de grandes déchirures dans la société israélienne avant les attaques du 7 octobre, puisqu'il y avait ces manifestations de masse et que Netanyahou était quand même en difficulté à minima. Mais aujourd'hui...
Écoutez, pour l'instant, il y a une forme d'union sacrée qui tient... Je suis pas allé en reportage en Israël ces derniers temps, mais je vois qu'il y a assez peu, voire quasiment pas, de voix dissidentes. Alors il y en a sûrement, discrètes, qui pour l'instant sont pas encore en train d'attirer les projecteurs et les micros, mais il y a sûrement des gens qui sont assez préoccupés par la tournure que prennent les événements et la tournure que prend l'offensive israélienne. Mais de là à ce que ça se transforme en une forme d'opposition politique, pour l'instant, on n'y est pas. Hein, et puis bon, il faut bien comprendre aussi que la gauche israélienne, ce qu'on appelait le camp de la paix, a été laminée ces 20 dernières années. Donc là-dessus, Netanyahou joue sur du velours.
Les sondages sont ambigus.
Et la politique de colonisation n'est remise par aucun des principaux responsables.
Aucun.
Il y a eu des prises de parole officielles des principales figures d'opposition à Netanyahou. Et ils ont profité de ces prises de parole pour rappeler qu'en fait, ils ne remettaient en rien en cause la dynamique de colonisation en Cisjordanie. Et si on devait chercher finalement une forme de consensus national, même s'il est tacite, en fait, il se dessine autour de cette question. Et c'est ce qui se joue en réalité aussi aujourd'hui. On est focalisé sur Gaza, mais en fait, ce qui se joue en toile de fond, c'est l'avenir de la Cisjordanie, parce qu'il y a un idéal, celui du sionisme religieux, et de ses acteurs qui perçoivent dans la séquence une opportunité historique pour traduire en acte, finalement, un dessein biblique qui convient d'ériger en perspective politique. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui.
Sylvain Sipel.
Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que les sondages...
Est-ce que des Israéliens ont tout de même conscience d'être dans une situation qui conduit le pays à se mettre en danger vitalement ?
Non. Ils sont dans la vengeance, ils sont dans le désir d'éradication des Palestiniens, pas du Hamas, je dis bien des Palestiniens. C'est-à-dire, non, c'est ça la volonté globale de la population. En revanche, il y a des phénomènes qui se manifestent quand même. Enfin, moi, des contacts que je peux avoir, on me dit beaucoup que le niveau de dépression des gens, il faut bien comprendre qu'ils ont renoué avec un sentiment qu'ils avaient totalement perdu et qui s'appelle la peur. Mmh. Et c'est un truc pour eux sidérant. On leur avait dit que la barrière qu'on a construite autour de Gaza, c'est infranchissable. Et ils sont passés comme ça. Et donc, il y a quelque chose d'une crainte qui s'est installée. Il y a un nombre qu'on ne connaît pas de gens qui sont partis à Chypre, en Grèce, dans les pays environnants, parce qu'on attend, on va voir. En tout cas, on ne reste pas en Israël. Tout ça dit quelque chose d'une société qui, quand même, est abattue par ce qui s'est passé le 7 octobre.
Ça qu'ils aient été abattus.
Vraiment, et on en parle tous les jours dans les journaux, etc. Je pense que aujourd'hui, d'après ce que, si on voit les sondages, ça bénéficie à l'extrême droite. C'est-à-dire que Netanyahou plonge. C'est normal, Netanyahou, quand même, il a eu des éléments tangibles qui disaient que le Hamas préparait une opération d'envergure, et il a mis ça à la poubelle en disant, bon, enfin, c'est dingue, qui peut penser qu'il fasse. Tout ça est ridicule. Bon. Donc, évidemment, il aura du mal. D'ailleurs, il y a un aspect un peu problématique avec sa situation, c'est que lui, il a intérêt à ce que la guerre dure, à titre personnel.
C'est-à-dire que la fin de la guerre marquera son éviction.
Oui. A priori. Après, s'il a un succès politique extraordinaire et qu'il arrive, comprendre, par exemple, à expulser tous les Palestiniens, bon, peut-être qu'il peut gagner des élections. Mais sinon, non. On le voit, personne en Israël ne le voit gagner des élections.
Le truc, c'est qu'il y aura non seulement des élections, mais il y aura surtout une commission d'enquête.
Il y aura une commission d'enquête. Voilà. Il y aura des procès qui vont reprendre.
Et la commission d'enquête risque d'être complètement...
Terrible pour lui. Terrible.
Le terrasser, quoi.
Ça peut le terrasser, mais bien entendu.
Rien ne le terrasse.
Bien entendu.
Mais là, il y a des éléments, comme disait Sylvain. C'est-à-dire que le New York Times a sorti... un document qui montre qu'il y avait un plan du Hamas qui avait été intercepté par les services de renseignement qui ressemblait étrangement en plusieurs points à l'opération que le Hamas a menée le 7 octobre. Donc il y a quand même des faisceaux convergents qui laissent à comprendre que l'establishment sécuritaire, les renseignements, etc. disposaient d'éléments, mais visiblement ces éléments n'ont pas franchi le palier entre le sécuritaire et le politique. Les politiques ne s'en sont pas emparées. Donc ça, c'est quelque chose qui va, c'est une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de Netanyahou.
Dernier mot.
Rapidement, l'avenir de la démocratie en Israël nous concerne au premier chef. Je donne un exemple. Si la sécurité est une valeur cardinale dans cette société, elle a dépassé les frontières d'Israël. Elle nous a influencés. Elle a influencé le débat public en France, où on a entendu plusieurs fois des citations se référant au modèle israélien en matière de sécurité. Il y a la question de la sécurité, mais il y a aussi plus largement, encore une fois, ce qui se joue sur la scène internationale en termes de valeurs. Lorsque Russes et Chinois critiquent les valeurs libérales, disent que la démocratie est décadente. En opposition, on considère naturellement, on se défend comme on peut, qu'au contraire, on a des valeurs nobles, d'humanisme, d'universalisme, etc. À force de soutenir de manière inconditionnelle à travers des critiques relatives, un régime qui précisément fait fi de l'état de droit et de valeurs fondamentales, on s'affaiblit dans notre confrontation, dans la confrontation du siècle, face à des régimes précisément qui ne croient pas dans ces valeurs.
Et cette crise, en plus, cette guerre succède à l'Ukraine, qui était déjà une épreuve...
Ah non, alors en Ukraine, on s'est senti fort.
La sincérité de Biden.
Mais non, en Ukraine, on s'est senti fort. On a cru pouvoir mobiliser l'opposition entre deux blocs. Exactement. Et là, tout s'effondre. Et donc, tout s'effondre, mais avec des vainqueurs et des vaincus. Russes et Chinois sortent renforcés dans leur discours.
J'ajouterais même les Iraniens.
Merci.
Et malheureusement.
Merci.
Et l'Europe affaiblie.
Définitivement.
Merci à tous pour cette longue discussion enrichissante. Bien sûr, on suivra cette actualité, une fois encore, dès la semaine prochaine sur QG. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous avons une grande nouvelle ce soir, puisque QG a réussi son crowdfunding sur Ulule. Voilà, donc c'est fait. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de ça. Bien sûr, l'équipe vous remercie du fond du cœur. Et moi, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et bien sûr à ce mois très intense de préparation du crowdfunding que nous venons de vivre. Je pense particulièrement à Antoine, à Mélina, à notre équipe technique aussi, Marc, Quentin, Cédric et à tous les autres membres de l'équipe de QG qui ont été très mobilisés pour ce succès. Je vous rappelle, c'est très important que vous pouvez continuer à donner, à nous soutenir sur la plateforme Ulule dès ce soir et cela jusqu'à vendredi minuit, fin de la campagne officielle. Nous aurons probablement des annonces à vous faire dès demain. Nous allons certainement fixer une autre étape pour cette campagne. En tout cas, merci à tous. Merci mille fois pour votre soutien dans une période particulièrement difficile au niveau financier pour les Français et au niveau de l'actualité. Nous avons réussi ça grâce à vous, comme nous devons notre naissance, la naissance de QG également, à votre soutien indéfectible. Je vous dis à très bientôt. Bonne nuit à tous. À demain.